Bonjour, bonjour. Merci de prendre votre place. Je salue en préambule les trois membres du public. Il va falloir qu'on reprenne l'habitude de venir, mais bravo. Non, il n'y en a pas cinq, parce qu'il y en a deux qui sont professionnels. Bravo d'être venu. Bonjour Robert. Hello. Je vais procéder à l'appel. Monsieur Patrice Benoît. Nadia Nelson. Christian Bussard. Présent. Alain Chauville. Vincent Domard. Valérie de Barbieu, elle va arriver en cours de réunion, elle m'a donné un pouvoir, donc elle reprendra sa voix quand elle arrivera. Bernard Delpal est absent et a donné pouvoir à Marie-Madeleine Leclerc. Marc Ébrard.
Non.
Laurence Girard.
Présent.
Jacques Glaise.
Présent.
Vanessa Huguenin.
Présent.
Sylvain Jean. Marie-Madeleine Leclerc, Anne Iliagre, Christophe Monsigny, Marion Martin, Magali Mirny, Geneviève Morenas, Nathalie Paulin, Camille Perrin, qui est absente, qui a donné pouvoir à Marion Martin, Frédéric Sten, Arnaud Thévenot, il arrive peut-être. Il y a des nouvelles. Arnaud, on ne sait pas. On va voir. Absent, ce sera celle-là. Et Paulette Vignon, qui a donné pouvoir à Marie-Madeleine Leclerc. Merci. Je voulais faire une demande concernant une délibération supplémentaire. Puisque le département a décidé d'accorder la possibilité aux communes petites villes de demain de rentrer dans un dispositif qu'ils avaient déjà auparavant, qui s'appelle Centre-Ville et Village, et qui accorde un certain nombre de bonifications et de subventions. Donc, pour pouvoir rentrer dans ce dispositif, il faut passer une délibération. Donc je voulais savoir si quelqu'un était contre cette délibération supplémentaire qu'on passera en fin de conseil municipal. Pas d'objection, ça va? Merci bien. Est-ce que... Alors ensuite, je voulais...
Une question.
Oui.
On va avoir combien de
procurations? Deux. Tant que le Covid rôde. Oui, procès-verbal de la séance du conseil municipal du 3 mai. Est-ce que quelqu'un a des remarques?
Bonsoir. Oui, bonsoir. On a des remarques. Une nouvelle fois, on a eu l'occasion de se manifester à plusieurs reprises, à s'exprimer à plusieurs reprises. Et malheureusement, tout ce que l'on a pu dire, alors ça rentrait dans les détails bien sûr, mais au moins les grandes lignes n'apparaissent pas dans le PV. Voilà. Donc on souhaiterait vraiment que nos souhaits, enfin nos dires, apparaissent une bonne fois pour toutes dans les PV. Voilà. Alors, je sais ce qu'on va me répondre, hein. Ce sont des comptes rendus succincts ou autres, mais non, un compte rendu, un PV, il faut qu'il soit complet. Voilà.
Je lis quand même sur les subventions, je lis la remarque de Nadia Nelson, je lis la remarque de Madame Paulin, je...
Oui. Alors, pas dans sa totalité, certes, mais on a l'impression que dans ce que l'on dit, les choses, il y a un tri de fait, et tout n'est pas noté. On s'est quand même longuement exprimé au sujet des PORA, ça n'apparaît pas. Voilà, ce sont des exemples, hein, mais il est important pour nous et pour la population que les...
Monsieur Benoît pointe le risque qu'EPORA puisse vendre un tiers. Il craint la possibilité offerte à EPORA de pouvoir exproprier. Il s'étonne que le terrain de la Savillère fasse partie du territoire ciblé et annonce qu'il sera vigilant à ce que l'outil qu'offre EPORA ne serve que l'intérêt général. J'ai son texte ici, le texte de Patrice. Je ne veux pas le relire, mais franchement, les choses sont dites. Hein.
Très bien, bon, ben, tant mieux.
Enfin,
mais enfin, bon.
Alors,
on souhaite que... Oui, mais c'est important, Christian.
Oui, oui, non, mais c'est important. Je... Alors, bon, ensuite, il y a des choses sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, mais c'est pas le moment, qui sont des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies. Donc, je voulais faire une petite intervention tout à l'heure. Mais franchement, le plus gros de ce que... De ce que Patrice a dit est clairement exprimé, enfin, me semble-t-il. Voilà. Je ne sais pas qui est-ce qui s'abstient, qui est-ce qui vote contre, qui est-ce qui vote pour. Je vous remercie. Donc, 4 votes contre. Voilà, je souhaite saluer le. Ce n'est pas une nouvelle conseillère municipale, non, non. C'est une... Madame Réseau-Pouce, on l'appelle. Anne Momori, qui est chargée de mission pour l'opération Réseau-Pouce et qui vient nous... Donc on va commencer par ça, qui vient nous exposer un petit peu le projet de Réseau-Pouce et la manière dont il a bien avancé, qu'il est en train de se mettre en place. Voilà, je vais vous laisser la parole, Madame Momori. Et peut-être Geneviève en premier. Geneviève, tu présentes un peu le... Merci.
Voilà. Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, je voulais juste introduire un peu la présentation que Anne va faire sur, effectivement, le projet Réseau-Pouce. Vous précisez que la CCDB, en 2018, a validé un plan climat air énergie territoire, un PCAET, qu'on appelle sur le territoire défi climat. Et dans cette étude, dans le diagnostic, on constate sur le territoire que le transport routier occupe une place centrale dans la consommation d'équivalent pétrole de 35%, soit 5517 tonnes équivalent pétrole. De plus, nous savons que pour respecter les accords nationaux, nous devons diviser par 4 d'ici 2050 nos émissions de gaz à effet de serre. Et d'autre part, nous voulons répondre à un nombre important de nos concitoyens qui ont des problèmes de mobilité, soit une personne sur 4, selon les résultats du questionnaire auquel nombre d'entre vous ont répondu et que vous pouvez trouver sur le site de la CCDB. Pour des raisons multiples, ces personnes ont des problèmes, des raisons de finances, d'emploi, de handicap, d'âge, d'isolement. Et du coup, leur vie est plus compliquée. On a donc réfléchi au niveau de la Comcom à des actions qui prendraient en compte ces deux nécessités, notre impact environnemental et la solidarité. Et l'autostop organisé Réseau-Pouce nous a paru une réponse positive, sachant que plus de 2000 territoires l'ont expérimenté avec succès. Notre Réseau-Pouce local sera opérationnel à partir de juillet, de ce mois de juillet prochain. Il faut juste vous inscrire et Anne Momori, chargée de mission Réseau-Pouce, va nous expliquer comment ça marche.
Bonjour, on m'a demandé de vous présenter Réseau-Pouce j'ai une demi-heure, donc je vais vous présenter 10 minutes le dispositif et ensuite répondre à vos questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, dans 10 minutes, un quart d'heure, on pourra passer au sujet suivant. Je vais demander à monsieur la technique là-bas qui me passe les diapos de passer la première. Donc, je vais vous parler de l'autostop organisé. Ce qu'on appelle l'autostop organisé ou le covoiturage gratuit sur la communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux. Pourquoi ce dispositif Réseau-Pouce ? Il y a plusieurs raisons, Geneviève les a évoquées tout à l'heure. La première, c'est de répondre à des difficultés de mobilité sur les territoires ruraux de la communauté de communes et à la pénurie de transport en commun, enfin la pénurie de frais. Il y en a, mais la fréquence n'est pas forcément à la hauteur des besoins. La deuxième raison pourquoi on met en place Réseau-Pouce, c'est pour permettre de réduire ce qu'on appelle l'autosolisme. L'autosolisme, c'est des personnes qui circulent en voiture seule sur les départementales, particulièrement sur ces trajets entre Montélimar et Dieulefit, par exemple, ou jusqu'à Lyons. La troisième raison pour laquelle c'est intéressant d'utiliser Réseau-Pouce, c'est pour partager ces trajets sur des courtes distances. On est vraiment sur un dispositif de courte distance, pas sur des longues distances pour aller jusqu'à Lyon, mais vraiment sur la communauté de communes. La quatrième raison, c'est pour permettre de tisser du lien social, créer une communauté d'usagers qui sont engagés à travers une charte commune. Et puis la dernière raison pour laquelle Réseau-Pouce est intéressant, c'est pour permettre, et Geneviève l'a dit, de préserver l'environnement pour participer à la lutte contre le dérèglement climatique. Comment ça fonctionne Réseau-Pouce ? Et la solution permet de partager ces trajets sur des courtes distances. Il ne s'agit pas d'aller à Lyon ni d'aller à Avignon. Il s'agit d'être vraiment sur la communauté de communes, sans réservation, sans commission, et on partage ces trajets comme on prendrait le bus. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions. La solution bus avec des arrêts qui seront matérialisés comme le bus, avec des panneaux et des poteaux. Et une deuxième solution qui est une application mobile que vous pourrez télécharger sur votre téléphone. Donc l'arrêt matérialisé avec des panneaux et l'application sur votre téléphone du type, pour ne pas le citer, je n'ai aucune action chez eux, Blablacar, qui a ce type d'application. À qui c'est destiné? C'est la solution de partager ces trajets, c'est pour à la fois les conducteurs. Cette application, c'est pas seulement les passagers qui peuvent s'en servir, mais c'est important aussi que les conducteurs s'inscrivent sur le dispositif. Les conducteurs, sensibles à l'écologie, sensibles à la notion de solidarité. Et puis les passagers qui ont des difficultés de mobilité, on en a parlé tout à l'heure, les sans-emploi, les jeunes de 14-18 ans, les personnes isolées, les personnes âgées, mais également des personnes handicapées. Des passagers également qui ne souhaitent pas ou moins utiliser la voiture, par conviction écologique, par conviction de solidarité. Des passagers également qui ne souhaitent plus conduire pour des raisons personnelles de sécurité, c'est compliqué pour eux. Et puis également des passagers qui sont dans des foyers où il y a un seul véhicule et qui ont besoin de bouger, de se transporter pour aller par exemple au travail. Voilà à qui est destiné Réseau Pouce, les conducteurs et les passagers. Et si monsieur le technicien veut bien m'appuyer sur la... Ah oui, monsieur le responsable directeur général technique. Excusez-moi. C'est aujourd'hui, j'ai un peu réduit votre rôle. Excusez-moi. En pratique, comment ça fonctionne, Réseau Pouce? Eh bien, il s'agit de s'inscrire une seule fois. Et c'est une inscription qui est sécurisée. Je m'inscris gratuitement. Gratuitement, c'est la personne qui s'inscrit ne paye pas, mais c'est la communauté de communes qui paye l'inscription. Je m'inscris gratuitement, je fournis une pièce d'identité, je signe une charte de bonne conduite disant que je vais respecter un certain nombre de règles dans Réseau Pouce, et puis je peux m'inscrire de deux façons, soit sur le site internet www.réseaupouce.fr, soit sur un des points d'inscription qui vont être ouverts sur la communauté de communes. Ici, à Dieu le Fils, ça sera au lien 26 qu'on a prévu d'ouvrir un point d'inscription. Le deuxième point, une fois que je me suis inscrit, ben je vais recevoir mon kit mobilité par internet ou au point d'inscription. Je vais vous montrer tout à l'heure qu'est-ce qu'on reçoit. Et puis, bien sûr, une fois que je suis inscrit, j'utilise Réseau Pouce gratuitement et sereinement. Si je suis passager, je me place à un arrêt Réseau Pouce, ou bien alors je peux lancer l'application et indiquer où je vais aller. Ça fonctionne aussi bien pour les conducteurs que les passagers. Ça veut dire que c'est important aussi que les conducteurs s'inscrivent à Réseau Pouce pour des questions de sécurité, de confiance. Donc, comme c'est gratuit, c'est facile de le faire. Il suffit de présenter une pièce d'identité. Petit aparté, pour les mineurs, c'est aussi possible qu'ils s'inscrivent à condition d'avoir une autorisation parentale, une copie de la pièce d'identité des parents et bien sûr leur pièce d'identité à eux. En pratique, voilà ce que vous recevez quand vous inscrivez à Réseau Pouce. Vous avez un document recto verso, qui est le document qui est à gauche. Alors, on ne va pas lire en détail, mais ce document récapitule comment ça fonctionne Réseau Pouce, la charte de bonne conduite que vous signez quand vous inscrivez. Et puis à droite, vous avez le document, la carte adhérent. Vous allez recevoir une carte d'adhérent chez vous avec votre photo nominative, un numéro d'adhérent. Et puis un badge si vous êtes conducteur. Vous avez aussi un badge que vous pouvez coller sur votre pare-brise. Et puis, joint à ce kit mobilité, il y aura un courrier de la collectivité qui va souhaiter la bienvenue à la personne qui s'inscrit. Je continue. L'autostop gratuit organisé, donc j'ai dit de deux façons. Soit je me mets traditionnellement au bord de la route, je lève le pouce, mais je me mets là, c'est indiqué avec un panneau Réseau Pouce. Vous le voyez ici en haut à droite. Le monsieur, il est sous un panneau Réseau Pouce, et puis la dame aussi à la campagne, en pleine campagne également. Ils tiennent tous les deux un petit document qu'on appelle une fiche destination. C'est bien plus facile de montrer où est-ce qu'on va, et c'est plus de facilité pour être pris. La deuxième façon, en dehors de ces 77 panneaux sur la communauté de communes, dont 18 à Dieu le Fils, il y a cette application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone qui vous permet d'organiser vos trajets à l'avance. Par exemple, vous pouvez dire, je pars de Dieu le Fils, de la place de la gare demain, ou de Graveyron, et je vais à Montélimar. Donc soit en tant que conducteur, soit en tant que passager, vous pouvez vous inscrire, et les personnes qui sont soit passagers, soit conducteurs, peuvent à ce moment-là vous mentionner qu'ils sont intéressés pour faire le voyage avec vous. Les outils importants, c'est donc ce cette fiche destination que la personne passager qui est au bord de la route peut montrer pour dire je vais à Dieulefit, je vais à Nyon, je vais à Montélimar, je vais à Montjoux, etc. Et puis il y a ce qu'on appelle les fiches mobilité par commune qui c'est un petit plan que vous pouvez aussi éditer pour vous permettre de voir à un endroit où sont les arrêts réseau plus. Je continue à avancer. Si vous avez des questions, je vous propose de les noter, j'y répondrai tout à l'heure. Les panneaux réseau pouce, juste pour vous montrer comment ça, quelle tête ça a, un panneau réseau pouce, il y a un panneau en haut qui est destiné au conducteur, donc qui est un panneau 50-50, visible de loin, et un petit panneau explicatif qui donne des informations sur comment ça fonctionne. Le petit panneau explicatif va être orienté plutôt côté rue, plutôt que côté route, bien sûr. On l'a mis comme ça pour vous le montrer ici. Une petite précision sur les structures qui organisent Réseau Pouce. Il y a trois grands acteurs qui sont dans Réseau Pouce. Il y a en haut à gauche, c'est la SIC Réseau Pouce. C'est une structure qui a mis en place le dispositif Réseau Pouce depuis 2010. Ils ont 11 ans d'ancienneté pour mettre en place des dispositifs Réseau Pouce sur toute la France. Il y a 2000 communes déjà qui ont mis en place le système Réseau Pouce. Leur soutien est surtout technique. Le deuxième acteur, bien sûr, c'est la communauté de communes que vous voyez en haut à droite, la communauté de communes qui soutient financièrement et qui mobilise, bien sûr, les communes qui sont sur le territoire. Et trois associations, c'est donc un partenariat public et privé, avec trois associations privées qui se mobilisent sur notre territoire pour pouvoir lancer le dispositif. Village en transition qui porte administrativement et qui coordonne le dispositif. Collectif citoyen et peuple lié qui soutient les animations et la communication qui vont démarrer fin juin. La mise en place, quelques mots sur la mise en place qui est prévue. La mise en place qui est prévue, on a démarré déjà ce dispositif, je pense que certains d'entre vous en entendent parler depuis longtemps, puisqu'on a démarré par une rencontre citoyenne en 2019 qui s'est poursuivie par des réflexions avec les trois associations dont je viens de parler et qui a abouti à la mise en place du partenariat local entre ces trois structures. De novembre 2019 à janvier 2021, on a lancé le dispositif avec une petite problématique, bien sûr, que vous connaissez tous. On a dû s'interrompre pendant les 10 mois de 2019-2020. Et puis, en juillet, voilà le démarrage du dispositif. On est en train de lancer la communication, d'installer les poteaux sur les différentes communes. Et on va démarrer en juillet 2021. L'implantation, je vous montre une carte générale qui montre l'implantation des 70 panneaux sur la communauté de communes. Donc on ne les voit pas très bien, mais je vais vous montrer une autre carte pour Dieulefit. En tout cas, ce qui est important ici, mais je veux bien revenir sur la précédente, monsieur le directeur technique général, sur celle-ci, pour vous préciser qu'il y a trois communes qu'on appelle qu'on a mis trois endroits de retour sur des communes qui ne sont pas sur la communauté de communes, mais pour lesquelles c'est important de pouvoir revenir. C'est Montélimar, bien sûr, pour pouvoir revenir sur la communauté de communes, un autre arrêt qui va être prévu à Cray et un autre point de retour qui est prévu à Nyons. Sur Montélimar, on a prévu plusieurs arrêts parce qu'on a prévu un arrêt à côté de la gare, des arrêts à côté de l'hôpital et au niveau de Chabrillon. Donc tout ça a été vu avec le département, la région et les différentes communes à chaque fois. Pour les arrêts autour de Dieulefit, vous voyez l'axe ici de la départementale avec Poët-Laval, Dieulefit, au-dessus Combes, Montjoux, La Roche-Saint-Secret, voilà, un peu plus détaillé les différents arrêts qui vont se situer autour de la commune. Et puis, la diapo suivante, vous avez les arrêts sur Dieulefit, des 18 arrêts qui sont prévus. Il y a 11 emplacements, mais 18 arrêts parce qu'on met des emplacements de chaque côté. On ne peut pas faire traverser les passagers pour qu'ils aillent monter dans la voiture. Donc, on pourra venir peut-être tout à l'heure en détail sur les arrêts si ça vous intéresse. Globalement, on en a mis bien sûr tout le long de la départementale. On remonte aussi sur la D630, je crois, pour monter sur Bordeaux. Et puis ensuite sur la départementale qui descend ensuite vers Montjoux et ensuite vers Taulignan et Nyons. Voilà pour les 18 arrêts. On pourra revenir en détail tout à l'heure. Je termine juste sur la diapo suivante. Je rappelle l'intérêt, c'est renforcer l'offre de mobilité existante. C'est valoriser le territoire. Respecter l'environnement et enfin faciliter des déplacements pour les personnes qui ne sont pas motorisées. Un petit détail d'information, Réseau Pouce, ça marche depuis 11 ans, deux chiffres importants, 13 secondes, c'est le record d'une personne qui a attendu sur un arrêt Réseau Pouce, Et surtout, le deuxième que je trouve très important, c'est 9 fois sur 10, la personne attend moins de 10 minutes. Il faut savoir que c'est un frein important quand on veut faire du stop, on se dit oui, mais je vais attendre une heure à l'arrêt. Bon, un peu moins peut-être sur nos régions, hein, parce que les personnes sont un peu plus habituées. Mais en tout cas, ça, c'est un chiffre qui a été fait au niveau statistique par RéseauPousse au niveau national. Donc moins de 10 minutes, 9 fois sur 10. Voilà, la dernière diapo, je crois que je voulais vous montrer. Ben, c'est vous dire pourquoi ça marche comme ça si bien depuis 10 ans, 11 ans maintenant, puisqu'on est en 2021. Des arrêts qui sont repérés pour les conducteurs. On l'a vu tout à l'heure avec les panneaux, ça facilite le fonctionnement du dispositif. Une communauté d'utilisateurs identifiés, ça permet d'avoir la confiance. C'est-à-dire si je sais que le conducteur qui m'emmène, il est identifié, il est répertorié dans un fichier RéseauPousse, et que le passager que je vais prendre, il est aussi répertorié, c'est quand même plus sécurisant et ça crée plus de confiance. Le troisième point important, c'est que les arrêts sont adaptés pour attendre, donc ça crée une sécurité aussi. Pour attendre et pour s'arrêter, c'est-à-dire le passager, il attend à un endroit qui a un renfoncement. On a fait attention à ce qu'à chaque fois, il ne soit pas au bord de la route, mais dans un espace où il peut attendre tranquillement. Et la voiture peut aussi, il y a en général des renfoncements pour que la voiture s'arrête tranquillement sans gêner la circulation, qui est une obligation légale. Et puis en dernier point, des outils pour faire du stop. Je vous l'ai montré tout à l'heure avec le panneau qui donne la destination. Ça permet la rapidité aussi de ce dispositif. Voilà, j'en ai terminé. Un peu rapide, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre écoute pour vos questions.
Oui, j'avais une question. Est-ce que pour le conducteur, de manière à se faire reconnaître, le conducteur ou la conductrice, il doit porter une casquette rose avec un large rabat ?
Alors, il a simplement à poser son autocollant sur son véhicule. Ça te suffit, là? En sachant que il est aussi possible, pour des voitures qui ne sont pas enregistrées dans RéseauPousse, de s'arrêter à un arrêt et de prendre un passager. Simplement, le passager, si pour lui, il ne se sent pas en sécurité parce qu'il n'y a pas le macaron et parce qu'il voit que la personne n'est pas enregistrée, le passager a tout à fait la liberté de ne pas monter dans la voiture. De la même façon, la voiture qui a son autocollant RéseauPousse n'est pas obligée de s'arrêter à l'arrêt devant lequel il passe. Il a le choix de s'arrêter ou de ne pas s'arrêter. Chacun est libre de s'arrêter, de prendre un passager ou de s'arrêter à l'arrêt. Oui ?
Non, il y a un micro, il y a l'enregistrement. Moi, j'ai pas de bouton. Si, pardon. Donc... Le mandat précédent, il y a eu un vote sur les panneaux, c'est ça, hein, qui avait déjà été acté.
Exactement,
le montant, 2019. C'était quel montant pour les panneaux?
Alors, l'ensemble des panneaux, on va dire, alors j'ai plus les chiffres en tête, autour de 9 000 euros.
D'accord, 9 000 euros, et ça c'était la fabrication des panneaux avec la pose?
La fabrication des panneaux. Et la pose est à part, c'est-à-dire que la pose, il y a un certain nombre de communes qui font le choix de poser des panneaux et des communes qui n'ont pas les moyens techniquement de le faire. Donc en fonction des communes, ça sera différent.
D'accord. Et après, le soutien financier qui ira à l'association RéseauPousse, c'est un abonnement annuel ?
Alors, quand vous vous inscrivez, c'est juste une fois pour toutes. C'est ça votre question ?
Non, c'est pas ça votre question. La communauté de communes apporte un soutien financier ?
Oui.
Mais c'est un abonnement qu'elle prend, non, auprès de...
Alors, il y a une convention qui a été signée pour 3 ans.
D'accord.
Avec RéseauPousse.
D'accord.
Donc, il y a 3 années pendant lesquelles la communauté de communes s'est engagée à mettre en place ce dispositif.
Le montant de ce
soutien. Alors, le premier montant, c'était 6 000 euros la première année et 3 000 euros la deuxième année et la troisième année. En sachant que RéseauPousse gère le site internet, gère l'application, gère l'ensemble des inscriptions à RéseauPousse pour la communauté de communes et nous met à disposition tous les outils de communication que j'ai amenés ici, si vous voulez les voir. Les dépliants, les cartes de visite, les affiches, tout a été conçu par eux et on les utilise libre de droit.
D'accord. Et chaque année, ou je ne sais pas, la fréquence, il y aura un retour pour la communauté de communes, savoir Le nombre, bien sûr, d'adhérents au dispositif et surtout ce que ça a apporté en termes de flux.
Alors, pour ce qui est des inscriptions, bien sûr, ça va être comptabilisé facilement, puisque les inscriptions, le Réseau Pousse nous fera un retour, bien sûr, même quand on veut, on peut avoir les informations. Aujourd'hui, il y a 15 personnes inscrites sur la communauté de communes sur le dispositif Réseau Pousse. Le deuxième point, c'est qu'on peut avoir des informations à partir du moment où les personnes utilisent l'application.
Oui, d'accord.
Après, on va mettre en place aussi un certain nombre de petits outils pour que les personnes nous disent on a utilisé Réseau Pousse, donc les réseaux sociaux, bien sûr, pour avoir du retour, pour savoir un peu comment ça marche. Voilà. Mais si la personne n'utilise pas Réseau Pousse, je ne peux pas savoir. Et si elle ne met pas l'info sur un réseau social, je ne peux pas savoir qu'elle est allée à quel endroit prendre le dispositif.
Bon, la simple chose, c'est être capable au moins de sortir une moyenne de coûts. Oui. En fonction de ce qu'investit la collectivité par rapport aux usagers.
Oui. Donc
j'espère que les élus on aura un petit retour. Merci.
Juste pour compléter la réponse, moi je dirais que plus on sera nombreux à utiliser le dispositif, plus ça marchera, plus ça sera intéressant pour tout le monde, pour la communauté de communes, mais aussi pour chacun d'entre nous, et pour pouvoir aller le plus vite possible à l'endroit qu'on désire. C'est aussi ça l'enjeu.
On a eu une réunion au CCAS avec toi, Geneviève, il y a deux jours, et on avait parlé de la possibilité de mutualiser les panneaux, parce que ça va en faire 18, c'est quand même relativement cher.
Oui.
Et on avait parlé de l'idée de mutualiser ces panneaux avec les panneaux de la navette. Est-ce qu'il y a une possibilité là-dessus
Oui, alors les panneaux de la navette, on n'en a pas encore vraiment discuté. Pour l'instant, la navette, enfin, on en parlera dans la délibération suivante, mais la navette, il n'y a pas forcément pour l'instant de panneaux spécifiques, de signalétique. Voilà. Par contre, on a fait en sorte, sur Diolfi, d'essayer de commander des abribus, parce qu'effectivement, partout où il y aura des abribus, on pourra poser des autocollants, et non plus des autocollants Réseau Pousse, et non plus des poteaux avec des panneaux, etc. Donc ça reviendra moins cher. Et on essaye, mais ça, on est un peu en difficulté. Enfin, en difficulté. Disons que la région et le département ne sont pas très souples là-dessus pour pouvoir faire un peu, mutualiser les panneaux. Voilà. On est dans cette difficulté-là, arriver à faire en sorte qu'on n'en mette pas trop, mais que quand même, il y en ait aussi. Mais effectivement, le jour où on met des panneaux pour la navette, bien sûr qu'on va se servir de l'existant. On va essayer au minimum d'utiliser, de mutualiser. Je veux juste ajouter un mot pour dire que ça peut paraître beaucoup le nombre de panneaux. C'est juste l'expérience de Réseau Pousse au niveau national. Ils disent que pour que le dispositif puisse être utilisé par les piétons, en particulier par les passagers, en principe, il faut qu'entre chaque arrêt, il n'y ait pas plus de 500 mètres. À partir du moment où un passager doit faire plus de 500 mètres, il ne les fait pas et il préfère prendre sa voiture. C'est la raison pour laquelle on a essayé de mettre des poteaux. Enfin, voilà, on a passé beaucoup de temps entre les communes, le département, la région pour que ce soit à la fois pertinent et en même temps pas surchargé non plus.
Alors, je continue. Donc, la compétence mobilité, c'est la région. Hein, Julia, tu me corriges si c'est pas ça. Donc là, on se lance sur ce dispositif. Est-ce que on aura un retour de subvention à un moment ou pas du tout ?
Alors, je voulais en parler tout à l'heure au moment de la navette, parce qu'effectivement, il va y avoir un transfert de compétences de la région à la commune de Diolfi, mais pour ce qui concerne uniquement la navette. Pour ce qui concerne Réseau Pousse, la région n'est pour l'instant pas partie prenante dans le projet. Sachant que la communauté de communes, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit l'autre fois, je crois, n'a pas pris la compétence mobilité. Voilà.
Et juste un petit rappel, c'est évidemment la CCDB qui organise tout ça. La commune est là juste comme vecteur d'information pour que tout le monde soit au courant de cette opération, du lancement de cette opération.
Je veux juste préciser aussi pour les finances, pour répondre à votre question sur les finances, que le département, on a déposé un dossier de demande de financement au département en 2019, qui a été validé en 2020. Donc le département a donné une subvention pour le dispositif.
Dernière question.
Oui, comme ça a été un peu vite au niveau de la carte, je demandais si tous les villages de la CCDB étaient pris en compte par rapport à ces arrêts. Et s'il y a un aller, il n'y a pas de retour, on fait comment ? Enfin, comment font les gens ?
Alors, j'ai sillonné la communauté de communes avec grand plaisir, parce que je ne connaissais pas le territoire, donc c'est très agréable de pouvoir visiter. On a fait attention à mettre des arrêts dans toutes les communes. La seule chose qui nous a arrêtés, c'est quand la commune nous a dit non. Donc, il y a 3 communes qui n'ont pas souhaité avoir des panneaux dans leur commune. Donc, pour l'instant, elles n'ont pas de panneaux, sachant que peut-être si elles évoluent et si elles ont les moyens, on pourra en mettre d'autres. Les 3 communes, c'est Soupière qui a réduit les 4 arrêts qui étaient prévus à Soupière à un seul pour l'instant. Et la deuxième commune qui n'a pas du tout voulu que je la rencontre, c'est Orsinas. Et la troisième commune, c'est c'est Orsinas. Létonil, on a mis un petit panneau sur la porte en face de la mairie d'Étonil. La troisième, c'est Roche-Baudin, qui m'a donné sa réponse aujourd'hui, pour dire qu'il ne voulait pas être. Sachant que les mandatures précédentes avaient accepté.
Ça. Mettons, j'habite en Orsinas ou je sais pas où, et j'ai une voiture, j'emmène quelqu'un, mais je prends mon train, donc je vais à Paris. Donc le retour est assuré par qui?
C'est du stop, hein? Donc tu fais du stop. Alors, j'explique. Je pars de Dieulefi pour aller à Montélimar, c'est ça ton idée? Tu pars de Orsinas, il n'y a pas d'arrêt. On part d'Alérac, s'il y a des arrêts, il y a là. On part d'Alérac, et puis pour aller à Montélimar. Donc là, il y a quelqu'un d'Alérac qui habite et qui vous emmène. Vous arrivez à Montélimar, et puis vous revenez peut-être 2 jours après. Donc si vous revenez 2 jours après, ou même le soir, vous pouvez utiliser l'application en disant « Ce soir, j'arrive à Montélimar à telle heure, je serai à l'arrêt Réseau Pousse à Montélimar. » À 10 minutes, il y a un arrêt qui se trouve à côté du Palais des Congrès. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra me prendre? Et s'il n'y a personne qui te répond, tu peux quand même aller à l'arrêt et tu lèves le pouce et tu, avec ton panneau, tu attends une voiture qui s'arrête. Il y a les 2 solutions. Eh bien, oui, sur ton petit panneau.
Peut-être 2 voitures. Non, mais de toute façon, c'est du stop.
C'est du stop, exactement.
Oui, c'est pas une ligne de bus. Hein.
Par contre, ce que je voudrais rajouter, c'est que ce n'est évidemment pas un transport unique. Il faut le combiner avec d'autres transports. C'est-à-dire que dans ce que tu dis là, il y a le transport à la demande qui rentre tout à fait dedans. Le transport à la demande, c'est une modalité qui permet aux communes qui ne sont pas sur la ligne régulière de téléphoner et d'avoir un taxi. Pour l'instant, c'est le taxi qui va les chercher et qui les rabat. Non, c'est pas gratuit, ça coûte 2,50 €, je crois, le trajet, qui les rabat sur la ligne. Voilà, donc il y a plusieurs formules qu'il va falloir utiliser. On sait bien qu'il n'y a pas qu'une action. Voilà.
Je vous propose une dernière question, Marion.
Oui, moi c'est une toute petite question. À partir de quand on peut s'inscrire?
Alors, si vous voulez vous inscrire par internet, c'est tout de suite maintenant. Et pour donc ça c'est pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser, c'est sur réseaupousse.fr, vous vous inscrivez, c'est le plus facile. Et les points d'inscription, je suis en train d'organiser des formations pour les points d'inscription. Il y aura un point d'inscription à Montjour, au lien 26, j'ai dit adieu le fil, à Pointe-Laval. Donc, il faut juste que je forme les personnes. Donc, elles seront formées fin juin, début juillet. Donc, si vous avez très envie tout de suite, allez sur Internet et inscrivez-vous directement.
J'ai une dernière question. C'est la DRDDR.
Ouais. C'est savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place pour faire connaître, du coup.
Alors, j'ai entendu affiche.
Alors, on est en train de préparer avec les 2 autres associations, hein, puisque c'est Village en Transition, les Peuples Liés et le Collectif Citoyen qui sont en train de préparer toute la partie communication-animation. Donc là, fin juin, début juillet, on va être présent avec un stand Réseau Pousse sur les différents événements de la communauté de communes, que ce soit à Dieulefi, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Pont-de-Barré. On a prévu d'avoir un stand, c'est un des premiers éléments. On a prévu de distribuer des flyers, des petites cartes, je peux vous faire passer les différents éléments qui existent. On va aller les diffuser, on a à peu près 150 points où on doit aller déposer des documents. Ça sera fait d'ici fin juin. Et on a des affiches qu'on va mettre aussi pour les commerçants qui sont partants pour mettre des affiches. Et on a également des autocollants, enfin voilà, on a tout un dispositif d'outils pour communiquer, en plus des événements auxquels on va participer. Et bien sûr, l'Office de tourisme est complètement partenaire. Donc tous les événements vont être pris en compte.
Merci.
Une dernière chose, Christian. Il y aura un dispositif qui s'appelle les hashtags, je ne sais pas si pour les jeunes ça parle, où par exemple vous dites il y a une manifestation à Dieulefi importante, donc on met un hashtag, et si vous y allez, pour ceux qui y vont et pour ceux qui ont une voiture et ceux qui ont besoin de venir, il y aura un système où on peut échanger directement la réservation entre nous. Voilà, merci,
merci
de m'avoir... Écoutez, merci pour vos questions.
Merci. Je vous propose de rester dans le public si vous avez envie ou de rentrer à votre maison, comme vous voulez. Je voulais dire un petit mot sur le... un petit remerciement spécial à Geneviève, qui, je pense, depuis quelques années, se bagarre pour que cette opération voit le jour. Et voilà, j'espère que ça va fonctionner aussi bien que ce que tu imagines.
Oui, merci. Parce c'est que vrai que depuis 2014, je suis sur Réseau Pouce. Alors, voilà. Merci.
Donc, il n'y a pas de vote, hein. Pas de problème. Je passe la parole à Marion Martin pour le règlement périscolaire. Merci.
Merci. Donc ce soir, je vais vous demander de voter pour le nouveau règlement périscolaire 2021-2022. Il y a les articles, on va dire, classiques qui n'ont pas changé, donc avec les horaires, les modalités, nos agréments, les responsabilités, etc. Il y a eu quand même pas mal de changements du fait de la mise en place du logiciel d'inscription et de gestion service complice. On a dû modifier un peu quelques articles là-dessus. Ce service va permettre aux familles donc d'effectuer des inscriptions et des désinscriptions de la restauration et du temps périscolaire jusqu'à 20h la veille au soir. Les familles disposeront d'une visibilité complète et en temps réel donc sur leur compte, sur les inscriptions et les désinscriptions. Bien sûr, si dans le cas où il y a des familles qui n'auraient pas accès à Internet, qui n'auraient pas de matériel informatique ou qui rencontreraient juste des difficultés, les responsables des services périscolaires sont tout à fait prêtes à les recevoir n'importe quand. Enfin, sur les heures du périscolaire, bien sûr, pour faire les inscriptions avec elles et les accompagner. Ce service permettra également donc de mettre en place un paiement sur Internet par une plateforme sécurisée PFIP, mais on pourra encore payer donc en numéraire, donc en liquide, en chèque ou en chèque CESU, encore une fois, auprès des deux responsables du périscolaire. Voilà. Et la dernière petite précision, oui, c'est bien sûr en cas de difficulté de paiement, un accompagnement personnalisé peut être proposé dans le cadre du CCAS. Donc voilà, ne pas hésiter pour les familles en difficulté ou si vous connaissez des familles en difficulté à glisser à leur oreille cette solution. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui. Donc moi, nous tenions tous les quatre à te dire bravo,
merci,
parce que voilà, c'est quelque chose qui était en demande depuis un certain temps, une amélioration et une modification de ce système d'inscription. Donc voilà, bravo.
Ah, merci beaucoup.
Faut le dire, des fois on le dit quand même, ne croyez pas que on ne fait que dire non.
Je prends avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, je vais passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Eh bien, c'est voté à l'unanimité. Merci beaucoup.
Merci Marion. C'est vrai que c'est un vrai progrès pour, je pense, tout le monde, les personnels et les parents. Et c'est une belle évolution. Je vais repasser la parole à Geneviève Morenas pour la délibération concernant l'aide financière de la commune à l'achat d'un vélo à assistance électrique.
Oui, alors c'est une aide financière qui existait déjà depuis 2019. Donc c'est Mme Priotto, maire, qui avait mis en place cette aide. Elle se limitait en 2019 aux mêmes conditions que la prime d'État. Et on a souhaité l'augmenter, on a souhaité qu'elle profite à plus de citoyens du Olfitois. Donc on propose une modification et principalement sur le d'étendre le bénéfice de cette aide forfaitaire à tous les foyers fiscaux de la commune dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant l'achat est inférieur à 25 710 euros par part. Et ce montant de 25 710 euros correspond à la première tranche d'imposition. C'est pour ça que c'est ce montant qui paraît un peu bizarre. Voilà. La prime acquisition de vélo assistance électrique de la commune continue d'être attribuée aux particuliers selon les mêmes conditions. Ce sont donc des personnes physiques majeures qui acquièrent un vélo, un VAE doté d'une batterie sans plomb. Le demandeur doit justifier d'un domicile à Dieulfi. Il ne peut bénéficier de l'aide qu'une seule fois. Et la demande doit être faite dans les 6 mois suivant l'achat du vélo. D'autre part, les demandeurs pourront également solliciter l'aide de la communauté de communes de Dieulfi-Bourdeaux qui a fixé le seuil de l'aide à la même hauteur fiscale. Et pour les bénéficiaires qui remplissent les conditions, cette participation financière communale pourra également être cumulable avec l'aide de l'État. Ce qui vous donne par exemple, c'est pas un exemple, pour un Dieulfitois qui fait une demande à la mairie de Dieulfi, donc l'aide, s'il remplit évidemment les conditions, sera de 100 euros pour l'achat d'un vélo. S'il fait la demande à la communauté de communes, ça sera aussi 100 euros. Et l'État double les primes locales, ce qui veut dire qu'il aura 400 euros sur l'achat de son vélo VAE. Voilà. Non, 400 euros. C'est 400 euros maximum. Alors, par personne. C'est adapté. Alors, par rapport au revenu, c'est une bonne question. Là, j'ai pas la réponse. Bonne question. Est-ce que c'est par... Non, c'est par personne. C'est-à-dire qu'un couple peut avoir... pas pour la même année. Effectivement, tu as raison, puisque c'est un foyer fiscal. Donc, effectivement, c'est un vélo par année, par foyer fiscal. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Oui, Patrice?
Là, pour financer ces aides au budget, c'était sur quelle ligne?
On a prévu une ligne de 10 000 euros. Il y a une ligne budgétaire prévue de 10 000 euros.
D'accord, ok.
Voilà.
Pour mes
qui est en lien avec les rénovations de façade, c'est ça, si je me souviens bien?
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Pour mémoire, il y a eu... Non, je vais dire des... Je vais dire quelque chose qui va être trop flou, mais une dizaine de demandes l'année dernière. Enfin, c'est quand même très peu, quoi. C'est
pas... Alors, une dizaine de demandes l'année dernière, mais pour autant, cette année-là, c'est les premiers mois de l'année, il y en a autant. Il y a eu autant de demandes, début 2021. Alors,
la finalité de ma question, c'est qu'à un moment, vous allez devoir dire stop.
Bien sûr.
Bien sûr. D'accord.
Ouais.
Donc, il faut que tout le monde soit...
Oui, bien sûr, il y a 10 000 euros en lien avec les rénovations de façade. Et effectivement, une fois que la ligne budgétaire est dépensée, effectivement, ça s'arrêtera.
Oui, donc c'est 10 000 euros à partager entre cette aide-là et les façades.
Et c'est 2021. Hein, donc et ça veut dire que... Voilà.
Une question technique.
Ouais.
Les vélos avec batterie sans plomb, ça représente combien du marché des vélos électriques?
Ah, je ne sais pas, mais maintenant c'est la majorité maintenant. C'est des batteries lithium-ion. C'est la majorité.
D'accord.
Il n'y en a plus en vente de batteries plomb.
Sûr.
Oui. Même plus que ça. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait encore en vente en neuf. Je ne sais pas, Christophe, tu pourrais répondre à ça? Pardon? Ouais, ça ne se vend plus, les batteries vélo plomb. C'est terminé. Les batteries vélo plomb. Alors, on va passer... Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on passe au vote? Alors, on va donc passer au vote. Est-ce que des personnes sont contre? Est-ce que des personnes s'abstiennent? Eh bien, je vous remercie.
Merci Geneviève. Merci à tous. Je vais passer à une délibération concernant un petit problème budgétaire. Concernant une décision budgétaire modificative, l'éclairage public de la commune ayant fait l'objet d'un PV de mise à disposition du SDED, il n'est plus possible de comptabiliser l'investissement au chapitre 21 ou 23, mais il faut le passer au chapitre 204. Donc ça veut dire qu'il faut faire un aller-retour entre ces deux comptes. Et donc, je vous propose, en dépenses, d'augmenter les dépenses du chapitre 204
pour des subventions d'équipement versées bâtiments et installations et de baisser les dépenses pour un montant de 4 859 €, et de baisser les dépenses pour le chapitre 23, immobilisation en cours, installation matérielle et outillage technique. Est-ce que vous avez des questions? L'équilibre du budget n'est pas remis en cause. Pas de questions. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous allons parler donc de la convention de délégation de compétences pour l'organisation d'un service de navette. Et c'est Geneviève qui a la parole.
C'est encore moi. Donc, ce que je disais tout à l'heure à propos de la loi LOM, qui permettait aux communautés de communes de prendre la compétence, puisque pour l'instant c'est la région qui a la compétence transport, ça a été très difficile à décider, mais on a décidé de ne pas prendre au niveau de la communauté de communes la compétence transport et de la laisser à la région. D'autre part, quand on laisse la compétence à la région nous propose une convention. Une convention de coopération, de partenariat, pour montrer qu'on va travailler ensemble. La convention de partenariat proposée par la région a été modifiée plusieurs fois. Au début, on nous a fait une proposition de convention avec un peu une liste à la Prévert. Donc, on a mis beaucoup de choses. Et puis, la convention nous est revenue. Enfin, il y a eu des allers-retours assez nombreux. Et la convention, finalement, s'est réduite à peau de chagrin. Et il fallait décider très très rapidement. Donc du coup, on a décidé au niveau de la communauté de communes de ne pas signer de convention, pour l'instant, avec la région. Mais pour autant, la commune de Dieulefi a un service de navette, donc de transport de personnes régulier. Et pour ça, il nous faut absolument un transfert de compétences de la région que jusqu'à maintenant, on n'avait pas. Donc c'est juste une mise à niveau, on va dire juridique, pour être dans les clous, pour être régulier avec la région. Donc ce que je vous propose, c'est de signer une convention de délégation de compétences pour la navette sur la commune de Dieulefi. Pour l'instant, il n'y a pas de participation financière, puisque la communauté de communes n'a pas signé sa convention de coopération. Mais à partir de septembre, quand les nouveaux élus régionaux seront en place, on va évidemment revenir sur cette convention, sachant qu'on n'est pas les seuls interco à avoir refusé de signer. Donc on a une capacité de lobbying, si on peut dire, ou en tout cas de pression assez forte pour faire évoluer la convention telle qu'elle nous est proposée. Donc ce que je vous propose, c'est de donner au maire la possibilité de signer cette convention pour pouvoir se mettre aux normes avec la région. Voilà, tout simplement. On a, au niveau du CCAS, Nadia était présente, travaillé sur les horaires de navette. On a fait des propositions de modification de desserte, donc pour agrandir le nombre de dessertes, puisque pour le mois de mai, là, on est en accord évidemment avec les transports Ginès qui sont pour l'instant notre prestataire de service. Ils nous... L'arrivée de Valérie, à noter. Donc, on a des horaires prévus pour là, entre mai et fin juin, puis des horaires pour l'été, puis des horaires à partir de septembre. Donc, ça fait trois horaires différents, mais pour desservir des quartiers différents aussi. Sachant que l'été, on pense qu'il y a plus de demandes qu'en sport saison. Surtout que, pour l'instant, la navette n'était pas très connue, mais que là, on commence à s'apercevoir qu'il y a une vraie demande et un vrai retour. D'autant plus que la navette, on a aussi décidé, le CCAS a décidé de la rendre gratuite pour tous. Et donc, du coup, à partir de là, Madame Richard Jean en est témoin, nous l'a signalé, il y avait beaucoup plus de passagers. À partir du moment où elle est gratuite, pourtant Dieu sait que ce n'était pas très cher, hein, 50 centimes, c'est pas très cher, mais voilà, le fait de la rendre gratuite permet aussi une utilisation beaucoup plus large, et tant mieux. Et tant mieux. Voilà. Oui, alors ça, c'est pas les bons horaires. C'est pas ceux-là qu'il faut marquer. Mais bon, vous les aurez dans le bulletin municipal. Et puis, évidemment, dès que la convention sera signée avec les transports Ginès, on va pouvoir effectivement les distribuer largement. Voilà, donc je vous propose donc qu'on vote pour cette délibération. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Juste pour revenir sur les délibérations qu'il y a eu en communauté de communes, lorsque ça nous a été exposé, c'est que le financement des navettes, enfin de prendre la compétence mobilité, c'était lié quand même à une taxe payée par les entreprises. Alors je ne me rappelle plus le critère, hein, c'était des grosses entreprises. Et ce qui nous a fait reculer, c'est que notre territoire, il est loin d'avoir ce potentiel. Donc, quand vous dites on va pouvoir faire peut-être pression, renégocier la convention, quelles sont vos marges de manœuvre ? Puisque le financement, ça se fait par une taxe. Donc, si on veut financer d'autres navettes, d'autres moyens de locomotion, l'argent, c'est pas la région qui va financer.
Si, la région est tenue, puisque c'est la région qui a la compétence transport, la région est tenue de participer au financement. Dans la convention proposée de coopération avec l'Interco, il était prévu, par exemple, que la région prenne en charge 50% des frais de la navette pour les nouveaux trajets. Donc il y avait une prise en charge de 50%, mais c'était tellement noyé dans des articles qui étaient pas satisfaisants pour le reste, que du coup on n'a pas voté pour ça. Mais il y a obligatoirement, puisque c'est la région qui a la compétence transport, évidemment la région va abonder. C'est logique. Non, c'est ce que je disais. Pour l'instant, dans la convention, il n'y a rien, puisque l'Interco n'a pas signé de convention pour l'instant.
Il y a deux niveaux de discussion. Il y a le niveau entre la Comcom et la région, et il y a le niveau dont on parle aujourd'hui, entre la commune et la région. La navette est communale, concerne seulement Dieulfi, et depuis qu'elle existe, il n'y avait pas eu de convention signée avec la région. Or, comme c'est une compétence régionale, il faut qu'on signe quelque chose. Alors c'est bon, on a
aujourd'hui failli, c'est juste ça.
On a failli avoir des aides pour cette navette importante. Ça c'est pas fait, je pense que c'est lié à la proximité des élections. Hein.
Je pense que
on n'est pas très bien tombé, mais on a bon espoir que après l'été, on puisse se faire aider pour cette opération qui est portée par la commune, mais qui devrait être financée en partie par la région.
Oui, je me posais la question, est-ce que dans la convention, il est noté la possibilité pour la région de mettre à disposition un véhicule propre acquis à ses frais ?
Non, pour l'instant, sur la convention, il n'y a pas ça. La convention, c'est juste nous faire un transfert de compétences. C'est juste ça, pour l'instant, la convention. C'est un transfert de compétences pour être dans les règles. C'est uniquement à ce niveau-là que ça se passe. Et dans un deuxième temps... Donc, à partir de septembre, viendra une autre discussion.
C'est ça.
Voilà. Moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des discussions qui sont faites au niveau de la Comcom pour mettre en place des navettes qui concerneraient d'autres communes ou pas ? Alors, là, on voit bien que la demande sur Dieulfi, la navette, date de 2004. Hein, donc, elle a été mise en place par Plumel à l'époque. Donc, ça date d'un certain temps. Mais en tout cas, elle a bien fonctionné, elle a bien rempli son rôle. On va effectivement au niveau de la commission défi climat faire en sorte de questionner les autres communes pour voir un peu s'ils sont intéressés à ce moment-là, voir s'il n'y a pas une navette intercommunale qui pourrait se mettre en place. Mais les navettes de Dieulfi desservent principalement le marché le vendredi et le mardi soit les courses, soit les visites chez le médecin, enfin voilà, ce qui est d'ordre plus, on va dire, quotidien.
Oui, mais il y a des gens qui vont jouer de quoi.
Tout à fait. Mais après, ça va dépendre des communes qui elles-mêmes verront si ça correspond à une demande de leurs habitants.
Mais c'est prévu.
Oui, c'est prévu de
questionner. C'est en discussion.
Merci. C'est bon, on peut passer au vote, hein ?
Yes.
Alors, qui est pour... Attendez, il faut que je relise correctement. Qui est pour... approuver la proposition, dire que les horaires des deux lignes concernées seront en annexe. Non, donc voilà, dire qui est pour. Voilà, ils m'ont borné à ça. Merci. Qui s'abstient ? Personne. Qui est contre ? J'ai pas vérifié tout le monde. Je vous remercie.
Merci. Ensuite, de temps en temps, dans les conseils municipaux, il y a comme ça des moments de grâce.
nous devons passer une délibération pour acter, pour officialiser un don d'un sculpteur qui a vécu une partie de sa vie à Diolfi et qui est très attaché à la ville et qui donc nous donne une de ses sculptures, une de ses belles sculptures. Donc je vais laisser à Annie le micro pour qu'elle nous explique.
J'incarne le moment de grâce. Merci Christian. Je suis très flattée. Donc effectivement, pour prendre possession officiellement de ce don, nous avons besoin d'une délibération. Alors quelques mots sur ce sculpteur, François Colette, qui...
Fort. On n'a pas nommé de secrétaire. Le moment de grâce s'effondre. on en tenait un et là, il nous faut un secrétaire de séance. Qui est-ce qui veut être secrétaire de séance? Vincent. Merci Vincent. Super. On reprend la grâce.
Moment de grâce deuxième. Donc François Colette. Diolfitoi, qui à l'issue de sa carrière artistique donc, a souhaité faire don d'une œuvre à la commune de Diolfi, à laquelle il est affectivement attaché et sur laquelle donc, il habite. Il s'agit d'une sculpture que vous pourrez voir au foyer, qui s'appelle L'écorché. C'est une œuvre soudée en métal patine noir aux dimensions suivantes, 107 sur 52 et 8 cm d'épaisseur. Et elle a été inaugurée donc en présence de l'artiste le mercredi 26 mai de cette année. Voilà, donc je vous invite à délibérer afin de s'engager à exposer, ce qui est déjà le cas, cette sculpture à la vue de tous et à assurer sa bonne conservation et à garantir sa protection. Également autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et enfin remercier chaleureusement Monsieur François Colette pour son don à la commune de Diolfi. Si vous n'auriez pas d'objection, vous pouvez simplement peut-être applaudir. Voilà.
On applaudit, mais on vote aussi. Est-ce que quelqu'un est contre?
Ça, enfin, c'était sous-entendu. Est-ce qu'il y a une objection?
Est-ce que quelqu'un est contre?
Quelqu'un s'abstient? Donc voilà, c'est bon.
On va passer du côté du marché avec Vanessa, puisque on a... Voilà, elle va nous expliquer. On avait besoin de quelqu'un de plus pour nous aider au marché, donc on vous propose de créer un poste de placier.
Donc moi je vous mets en délibération et au vote ce soir une demande qui est le fait de créer un poste et un poste serein, un poste de placier. C'est un poste qui est important, le marché à Diolfi est vecteur d'une économie qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager, elle fait partie du développement des petits producteurs, du circuit court, c'est quelque chose qui nous importe. De maintenir un marché fort et on a besoin pour ça d'avoir un placier et on voudrait mettre en place un poste de placier pour pouvoir pérenniser ce travail-là qui est un travail important à nos yeux et donc c'est pourquoi ce soir je mets donc à votre délibération l'ouverture d'un poste de placier pour la commune de Diolfi. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, c'est pas une question. Oui, oui, c'est une question aussi. Jusqu'à présent, il semblerait que ce soit Alexandre, hein, si je me trompe, qui soit placier.
Non.
Non?
Non.
Ah. Donc jusqu'à présent, le travail était fait par Laurent Bra.
C'est Madame Corinne Bra qui est officiellement, c'est Madame Corinne Bra qui est la placière titulaire. Oui. Son suppléant second est M. Laurent Audras, qui du coup, depuis l'arrêt de travail de Mme Corinne Brun, donc effectue ce poste depuis, sur les délais peut-être un an et demi, deux ans, que M. Audras, maintenant trois ans déjà, et le temps passe vite,
C'est donc depuis 3 ans, Monsieur Audras donc, occupe ce poste. Monsieur Alexandre Ex-Braga n'est que le 3e suppléant sur ce poste-là. Donc, il n'effectue ce travail que lorsque Monsieur Audras prend ses congés.
Très bien, parfait.
Voilà. Et donc, il faut savoir que Monsieur Audras va terminer son contrat au sein de la commune de Dieulefi. Donc, en début de l'année prochaine, il nous faut donc remplacer également le poste de placier.
Il s'agit d'un poste de 6 heures par semaine, hein. C'est pas un plein temps.
Et d'après ce que je lis dans la délibération, c'est indépendamment du rôle de régisseur. C'est une autre personne
qui prendra en charge toute la partie régie. Il faut savoir qu'il y a énormément de changements de fonctionnement aujourd'hui, puisqu'à partir du 1er janvier 2022, l'obligation de la dématérialisation du paiement se met en place. Donc, il faut mettre tout un système de régie en fonction, puisque pour que les commerçants non sédentaires, les CNS qui viennent s'installer au marché pour vendre leur production, pouvaient jusqu'à présent payer en liquidité. Et donc, à partir du 1er janvier 2022, donc ce ne sera plus autorisé. Il faut donc mettre en place toute une régie qui va avec une régie marché. Et donc, le système... Mais Marie, tu veux répondre, je te vois là-bas. Je vais lever la main.
En fait, ça sera la même personne, mais dans un second temps. Parce que voilà, il y a beaucoup de démarches administratives à mettre en place pour les modifications de régie. Vu que voilà, il y a beaucoup de modifications à faire. Mais on est obligé de le faire décalé.
C'est deux choses différentes, en fait. Aujourd'hui, c'est un placier.
D'autres questions ? Non. Alors, est-ce que quelqu'un est contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Est-ce que quelqu'un est pour ? Je vous remercie.
Bien, sachant que le poste, est, enfin, la personne qui va occuper ce poste, elle est finie. Vous prenez la personne, d'accord ?
Oui, la personne a déjà été recrutée.
Elle a été reçue.
Effectivement, et a même commencé cette semaine en vacation parce que là, il y avait déjà un besoin ce vendredi. Donc voilà, il a bien voulu venir en vacation exceptionnellement ce vendredi pour commencer.
Il y a plusieurs demandes, plusieurs personnes reçues ou pas ?
Alors ça, c'est pas moi qui ai suivi les
Il faut la formation ?
Non. En fait, je me suis adressé aux gendarmes, au major de la gendarmerie pour savoir s'il avait quelqu'un dans un ancien gendarme qui pourrait faire l'affaire, parce que c'est un poste qui est quand même assez délicat. Et qui demande une forme de solidité à toute épreuve. Et voilà, je pense qu'on... D'honnêteté absolue. Merci. Et c'est quelqu'un qui, pour l'instant, qui a un contrat de 4 mois, hein, on va essayer. Lui essaye, nous on essaye, et puis on verra comment ça se passe.
Oui, après coup, ça ne remet pas du tout en cause le vote. Je me posais la question, mais la titulaire de la fonction... Quand elle reprendra son service, quid de la situation de la personne qui aurait été embauchée pour 6 heures ?
Je pense que tant qu'elle est titulaire de ce poste, on est obligé d'avoir un contractuel. Ce sera un contrat et que. En fonction de. En fonction d'évolution des choses.
Et on passe à la suite.
La suite. Je laisse la parole à Frédéric Stein pour parler de la médiathèque.
Moi, j'ai le grand plaisir de vous annoncer le premier pas d'une évolution très positive de la médiathèque à Dieulefi. On a prévu sur notre mandat, donc sur plusieurs années, une rénovation en profondeur et avec même une perspective de nouveaux locaux. Je vous rappelle que la médiathèque ne fait pas que du prêt de livres, malgré le fait qu'elle est déjà très bien achalandée, et là ça vaut vraiment le coup d'y aller pour ceux qui n'y sont pas encore, mais elle fait également du prêt de CD, donc musique, et également permet, et c'est sous-utilisé, la connexion à un système numérique qui permet de visionner des films totalement gratuitement à raison de 3 films par semaine, je crois. Et donc c'est vraiment très intéressant
puisque c'est libre et qu'on trouve pas mal de films intéressants. Voilà, donc ici, nous vous proposons d'ouvrir davantage cette médiathèque. Il y avait donc des besoins à la demande des usagers, mais aussi à la demande des écoles, de plages d'ouverture supplémentaires. Nous allons donc créer 11 heures de plus d'ouverture supplémentaire par semaine, soit 25 heures d'ouverture hebdomadaire contre 14 heures actuellement. Alors, on va nous dire que ça coûte cher. Eh bien oui, on a cherché des financements, figurez-vous, et on les a trouvés. On a, grâce à la DRAC, une possibilité de financement qui va nous permettre de couvrir la totalité des heures supplémentaires d'ouverture. C'est ce que nous allons voter tout à l'heure. Donc l'autorisation demandée à la DRAC de nous subventionner. Et je voulais également dire que ça occasionne pour Valérie Raspail, qui est donc agent en second, j'ai envie de dire, à la médiathèque auprès de Denis, 5 heures de travail supplémentaire, donc qui passera sur un temps plein grâce à cette ouverture supplémentaire. Donc comment ça se passe? Il y a donc une partie des heures déjà réalisées qui seront déclarées en ouverture, et nous allons réellement donc ouvrir ce temps qui était auparavant surtout destiné à du classement, du rangement, de la préparation. Donc nous allons ouvrir un certain nombre d'heures, à savoir 6 heures que faisait déjà Valérie, et nous allons ouvrir 5 heures supplémentaires, donc qui sont financées par la mairie, mais largement remboursées par la DRAC, par le dispositif de financement. Donc nous, il y a un petit tableau qui explique ça, c'est un peu un montage qu'a fait Isabelle, notre comptable, et nous garantissons en tout cas ici que la totalité des dépenses occasionnées par ces ouvertures supplémentaires seront couvertes par le financement de la DRAC que nous sollicitons ce soir. J'ai envie de vous dire aussi qu'on a fait tout un travail de réflexion sur les horaires qui était jusqu'à présent assez flou et compliqué et difficile à retenir. Nous avons établi des plages extrêmement simples et régulières et je vous les donne. Alors c'est sous réserve de confirmation parce qu'on va vérifier effectivement que toute l'organisation interne va permettre cela. Donc on aura une ouverture du mercredi au samedi en matinée de 9h30 à 12h, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On aura mercredi et vendredi, ouverture en après-midi 13h30 à 16h, et du lundi au vendredi, les ouvertures donc tous les soirs de 16h à 18h. Voilà, donc assez simple à retenir, on écrira en plus ça sur les cartes d'usagers, et on affichera ça largement dans la commune. Voilà, donc il vous est demandé d'approuver ce plan de financement, d'autoriser le maire à solliciter les financements auprès de la DRAC, et de prévoir les crédits nécessaires en inscription du budget de la mairie. Et avant de voter, je vous demande s'il y a des questions.
Questions ? Alors pour bien comprendre, donc le poste de Madame Raspail qui est... T'es à 30 heures ?
Ouais.
30 heures,
c'est ça.
Donc c'est un changement de contrat ou c'est vous payez 5 heures supplémentaires ?
On paye 5 heures supplémentaires.
Donc elle sera toujours sur
un
contrat ?
Non. Oui. On va... c'est pas maintenant ? On va pas ouvrir un... Pas aujourd'hui. D'accord. Mais dans le futur, normalement, on va réouvrir un poste et refermer son poste. Mais voilà, ça sera...
Donc pour qu'à terme, elle soit sur un poste à 35 heures ?
Tout à fait.
D'accord.
Était
donc
là,
on est sur 5 heures. Les heures, donc la personne qui va effectuer les autres heures, ce sera M. Auffray ?
Non, en fait, ce sont tous les deux. En fait, ils vont se répartir les heures déjà réalisées, mais qui ne donnaient pas lieu à une ouverture, et qui seront donc des heures ouvertes au public.
C'est une réorganisation du travail interne de la médiathèque.
C'est ça.
Donc avec leur accord, hein, en concertation, on a essayé de définir quelles étaient les heures travaillées et qui étaient possibles à ouvrir. Et on en a noté donc 6, qui auparavant étaient des heures de fermeture et donc du travail en fait interne, et qui pourront être à la fois donc un travail interne et à la fois un travail d'ouverture.
Il fallait financer 6 heures supplémentaires.
En fait, le dispositif DRAC permet de financer des heures d'ouverture supplémentaires annoncées. Et donc, le fait d'annoncer 11 heures en tout d'ouverture supplémentaire permet de financer la totalité du surcoût.
Oui, alors je trouve que ça fait beaucoup, 16 000 euros pour... Oui.
C'est ça. En tout cas, ça donne effectivement de la latitude pour réutiliser ces crédits sur la culture.
Le financement, c'est les nombres d'heures d'ouverture supplémentaires. C'est pas embauche par embauche. C'est pas. Oui. Après, c'est notre cuisine interne.
Mais c'est pour la culture.
C'est de la fléchée culture.
C'est de la cuisine culturelle.
Voilà. Merci. Pas d'autres questions. Oui, Nathalie.
Moi, j'ai juste une question qui est plutôt générale, mais qui peut-être concerne aussi ce petit point. Il y avait sur la convocation au conseil municipal la création d'un poste de bibliothécaire. J'étais un petit peu surprise, parce qu'un poste de bibliothécaire, c'est un poste de catégorie A. Alors, j'ai été surprise et malgré tout contente, parce que je me suis dit, tiens, on est en train de dire, on a un agent qui est catégorie B aujourd'hui, qui va partir à la retraite, et on va essayer de l'accompagner au mieux, et peut-être de voir dans quelle mesure on peut peut-être le faire évoluer au niveau de son grade, pour que quand il parte à la retraite, ce soit mieux pour lui. Sachant que ça serait bien que ce soit pour l'ensemble aussi des agents communaux, tous ceux qui doivent partir à la retraite, si on sait qu'il y a une date proche, qu'on essaye de voir dans quelle mesure on peut faire évoluer leur grade, et qu'ils puissent partir à la retraite dans des meilleures conditions. Or, il semblerait que ce ne soit pas ça. Par contre, je vous demande, notre nom à tous les quatre, s'il est possible effectivement de reprendre les carrières un petit peu des agents qui vont partir à la retraite dans un laps de temps assez court pour voir dans quelle mesure on peut les accompagner sur un changement de grade.
Je vais laisser Marion répondre, mais...
Pour ce cas-là, effectivement, c'est une erreur de syntaxe, tout à fait. C'était l'ouverture d'un poste. Dans le sens où pour passer de 30 heures à 35 heures, on est obligé d'ouvrir un nouveau poste et de fermer celui-là à 30 heures. C'est voilà, les joies des ressources humaines territoriales. C'était une erreur. Sinon, par rapport au départ en retraite, bien sûr que c'est, chaque départ en retraite est étudié, qu'il y a des évolutions de grade si c'est possible, c'est malheureusement des fois pas possible. Par contre, on essaye dans ces cas-là soit de faire des petites augmentations d'horaire, enfin, voilà, d'essayer de faire des échelons aussi, ça peut jouer aux échelons, même si c'est pas grand-chose. Voilà, on essaye toujours d'étudier quand même les départs à la retraite dans un but d'améliorer les situations.
Bien, je vous propose de mettre au vote. Donc, je vous demande d'approuver le plan de financement présenté, d'autoriser le maire à solliciter le financement par la DRAC et d'inscrire les crédits nécessaires pour le financement de cette action. Est-ce que... qui est pour ? Je vous demande qui est pour. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Nathalie, une abstention.
Alors, je dis juste pourquoi ? Parce que j'aimerais bien...
Avec le micro, merci. Sinon...
J'aimerais bien que dans la délibération, il soit quand même noté que le bémol entre ce qu'on va récupérer de la DRAC et ce que ça va nous coûter d'augmenter effectivement un agent à le passer à temps complet, ce soit vraiment en destination de la médiathèque.
D'accord, nous confirmerons le fléchage dans le compte rendu. Hein, merci. Il n'y a pas d'opposition. Merci.
Merci. Je vais redonner la parole à Vanessa pour nous parler d'une histoire de désherbage de médiathèque. Elle va nous expliquer.
Oui, c'est un terme qui peut être parfois un peu étrange pour une médiathèque d'utiliser le terme de désherbage, surtout pour une liste comme la nôtre. Mais le désherbage est le principe de retirer les vieux livres des médiathèques. qui sont des livres qui ne sont plus lus, plus demandés, plus utilisés. Et donc, il faut savoir que les livres, ils sont la propriété de la commune. Donc, lorsque on veut les retirer, il faut aussi, pour pouvoir les sortir, les retirer de l'inventaire de la commune. Et donc, pour ce faire, il faut qu'il y ait une délibération en conseil municipal qui autorise le retrait de ces livres. Et donc, évidemment, ils auront pour chacun des destinées différentes pour ces livres-là. Donc, ces documents et ces inventaires, donc il y aura des dons aux associations. Il y aura bien évidemment, voilà, parfois des livres qui ne seront pas réutilisables et donc cela partiront donc au papier. Mais pour d'autres, eh ben, le bibliothécaire fera en sorte de les réfléchir vers les demandes différentes d'associations et autres et pourquoi pas d'en faire une petite braderie s'il le souhaite, voilà, si c'est voulu et si cela peut servir à faire des échanges de livres à la médiathèque. Donc moi, c'est ce que je vous propose de mettre en délibération ce soir, c'est d'autoriser le désherbage de la médiathèque de Tulfi. Donc, est-ce que vous avez des questions ?
Oui, j'ai une question, je n'ai plus la réponse. Je me demandais dans quelle mesure on ne pouvait pas les utiliser pour la boîte à livres, mais il y a peut-être quelque chose qui l'empêchait, je ne sais plus. Non,
c'est possible, voilà. Ça fait partie des fléchages qui seront possibles pour les livres. Il faudra faire une sélection des livres, on fait confiance aux bibliothécaires.
Les boîtes à livres, quand il y en aura. Ouais. Voilà. Okay. Et par ailleurs, comme chaque année, à chaque fois, pour ce désherbage, moi, mon vote est lié au fait qu'on n'emploie pas de produits chimiques.
C'est une délibération que tu vas faire prendre donc chaque année, ou est-ce que tu l'as fait prendre pour 2 ans ? Je ne sais pas si c'est possible ou pas.
Chaque année, on regarde les besoins qui me seront exprimés par les agents de la bibliothèque.
On est obligé, à chaque opération, de prendre une délibération dans ce sens.
Alors, je mets au vote. Est-ce que quelqu'un est contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Est-ce que quelqu'un est pour ? Je vous remercie.
Merci. Voilà, donc il reste donc cette délibération concernant, qu'on a donc rajoutée en début de conseil municipal, concernant l'adhésion au dispositif départemental centre-ville et village. Donc ce dispositif centre-ville et village donc du département permet aux villes qui s'inscrivent d'avoir une subvention de 50% sur les études, une subvention maximum de 25 000 sur 50 000 euros d'études éventuelles, et puis avoir des subventions pour certaines opérations, des subventions plus importantes. Et donc c'est ouvert aux petites villes de demain, donc dans ce cadre-là, le département nous propose d'adhérer à cette opération. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que quelqu'un...
Peut-être
une petite question, Jacques ?
Oui, savoir où on en est de la signature pour petite...
On va d'abord voter et puis on en parle après. Je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un est contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Alors, pour répondre à la question, je réponds tout de suite. J'ai eu des nouvelles aujourd'hui de la convention Petite Ville de Demain par un coup de fil du sous-préfet qui a presque eu l'air étonné que ça n'avait pas été signé jusque-là et qui m'a donc dit qu'il signait dans la soirée et qu'on le recevrait demain ou après-demain, enfin en tout cas dans la semaine. Oui, attendez, j'ai pas tout dit. Mais j'ai pas tout dit. Parce que, évidemment, cette convention, je vous rappelle, est liée à la mise en place et à l'embauche d'un chef de projet qui est pris en charge à 75% par l'État. Donc je lui ai demandé où est-ce qu'on en est de cette prise en charge. Parce que c'est bien d'être petite ville de demain, mais il faut pouvoir embaucher cette personne qu'on attend, c'est important pour nos projets. Et les dernières informations nous sont passées de 75% d'aide de l'État à 75% maximum. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Puisque ça veut dire que certains auront 75% et d'autres pas. Donc, je lui ai évidemment posé la question et ben, c'est pas forcément gagné. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore les informations du ministère pour être sûr qu'on soit subventionné à 75% sur ce poste. Donc, il va signer la convention, ça va avancer, mais on va attendre ensuite l'accord de l'ANA et de la Banque des Territoires, qui sont les cofinanceurs de cette opération. Une question, oui. Un micro.
Ce qui veut donc dire que dans la convention, il n'y a pas de paragraphe financier.
Non.
C'est juste un accord de principe.
Oui. Un accord de principe et un accord de gouvernance entre la communauté de communes, la commune et la préfecture. L'État. Voilà, il y a une dernière délibération concernant, enfin non, c'est pas une délibération, le compte-rendu des décisions du maire. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait ce mois-ci. J'ai une seule décision pour la période écoulée. Elle concerne une commande, elle concerne quelque chose de relativement important, puisque c'est une commande passée auprès du SIEA pour collecter, pour installer un collecteur d'eau usée sur le parking des Grands Prés. Depuis toujours, pendant la fête du mois d'août, les caravanes s'agglutinent sur le parking du Grand Pré, des Grands Prés, et il y a un tuyau qui est mis dans le ruisseau, enfin dans le bas-côté, et toutes les eaux usées, je ne vous fais pas de description, partent dans le ruisseau, traversent des propriétés de gens qui sont absolument ravis de voir passer ces petits bateaux, et arrivent dans le Jabron qui est en dessous. Ça nous a semblé une honte. Donc on a décidé de mettre un peu d'argent là-dessus, donc ça coûte 8 223,60 €, et je pense que c'était une bonne décision, même si ça ne sert pas beaucoup. Ça peut servir à d'autres moments aussi, donc voilà, c'est fait. Voilà, on va passer aux questions diverses. Alors j'en avais une ou deux. Je voulais d'abord apporter des précisions sur l'ouverture de la rue du Bourg, qui a fait l'objet d'un certain nombre de discussions. Je voulais revenir à un petit peu en arrière, à deux réunions qui ont eu lieu en septembre et en novembre, autour de cette question de l'ouverture de la rue du Bourg, et qui ont été menées en particulier par Vanessa. Avec la deuxième réunion, il y avait 28 personnes, hein, tu me confirmes, dont un certain nombre de commerçants, qui ont exprimé leur... alors, évidemment, quand on pose des questions, forcément les réponses ne sont pas toujours toutes les mêmes, mais un certain nombre de commerçants et d'habitants ont exprimé leur souhait de voir la rue du Bourg fermée un petit peu plus souvent, ou un petit peu plus longtemps, ou un petit peu plus souvent. Voilà, c'est ce qui a expliqué l'arrêté que j'ai signé il y a 3 semaines ou un mois, qui dans lequel je prenais la décision de fermer la rue du Bourg à partir de 10h le matin jusqu'à 20h pendant tout l'été. Il y a eu un certain nombre de réactions d'habitants, aussi bien d'habitants que de commerçants, qui évidemment n'étaient pas là ce jour le jour de ces réunions. Donc on a reçu, qui nous ont expliqué leurs problèmes, qu'on a entendu, et on a donc essayé de trouver une solution, je dirais, plus équilibrée, entre une ouverture donc qui revenait à partir de 11h30 jusqu'à 20h, comme c'est le cas depuis une dizaine d'années, enfin 2000, je suis remonté sur les arrêtés de Mme Priotto de 2010, et c'était déjà ça, 11h30, 20h, donc on revient sur cette situation, avec par contre une nouveauté importante, c'est-à-dire que la rue du Bourg, même quand elle est ouverte à la circulation, n'est ouverte qu'aux vélos, livraisons et habitants, riverains. L'idée étant de faire en sorte que cette rue ne soit plus un passage entre la place Châteauroi et la place de la Bémanière, mais que les gens qui veulent passer pour aller
acheter des journaux ou des cigarettes, ou venir au bistrot ici, passe par les quais, ça prend 12 secondes de plus, et ça libère un certain nombre de circulations, un certain nombre de pollutions, un certain nombre de dangers dans cette rue qui, nous semblait-il, n'était pas faite pour ça. Voilà, donc j'ai repris un nouvel arrêté dans ce sens. C'est donc depuis une dizaine de jours comme ça, une grosse semaine, je trouve que pour la fréquenter régulièrement, les choses sont relativement apaisées. Voilà. C'est pas très facile de trouver un équilibre entre tous, et ça a été notre défi.
Et à l'automne.
Alors, ensuite, à l'automne, c'est pas fini, tu as raison. Nous nous sommes engagés auprès de tous, et je m'y engage aujourd'hui auprès de vous, pour que une consultation soit organisée auprès des Dieulfitoises et Dieulfitois, l'ensemble des habitants, parce que l'utilisation de cette rue concerne tout le monde, grâce à un questionnaire qu'on enverra à tout le monde, pour avoir le retour des uns et des autres, et pouvoir éventuellement faire évoluer les choses si besoin est. Tu veux dire un mot ?
Oui, c'est très bien ce que tu as dit, c'est même assez parfait. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu, pour avoir rencontré malgré tout quelques commerçants, en particulier le bureau de tabac du Haut, ils n'ont pas été consultés. Alors, ils ont été... Non, je vous explique, jusqu'au bout. On leur a dit, vous n'êtes pas consultés parce que vous n'êtes pas dans la rue du Bourg. Vous êtes place à Bémanie. Alors quand j'entends ce genre de choses, quelque part, moi, ça m'irrisse un peu le poil. Parce qu'ils sont quand même allez, à 5 mètres de la rue du Bourg. Et forcément, la population va dans ce sens. Donc voilà, eux, ils le ressentent relativement, plutôt mal. Je vais parler aussi des coiffeuses. J'ai entendu une chose importante, c'est que oui, les riverains, etc., il y a la possibilité de pouvoir quand même transiter dans la rue du Bourg. N'oublions pas une chose, c'est qu'on a un salon de coiffure dans la rue du Bourg. Deux, oui, excusez-moi, mais oui, début et fin de rue du Bourg. Qui a quand même une population de personnes âgées sur Dieulfi, et très souvent, les personnes âgées se font déposer devant chez le coiffeur. C'est comme ça depuis toujours, et je pense que c'est difficile de faire changer les méthodes. Voilà, c'est ça qui les gêne surtout, c'est qu'ils très clairement, ils perdent de la fréquentation dans leur boutique, alors qu'on pourrait à un moment ou à un autre trouver une solution pour que les gens puissent se déplacer, je n'allais pas dire librement, mais qu'ils puissent au moins vivre de leur métier, normalement, quoi. Ils perdent de la clientèle. Les petites mamies, certaines, ne peuvent pas se déplacer soit de la place Chatora, soit de la place Abémanié pour descendre chez le coiffeur. Voilà. Je ne suis que le porte-parole de ces gens-là. Un exemple. Et il y a aussi des riverains, et vous êtes aussi... On a tous la chance, ou la plupart, d'habiter à l'extérieur. Quand on va faire ses courses, on est content de pouvoir se garer près de chez soi pour décharger sa voiture. S'il faut attendre 20 heures pour la décharger, c'est compliqué. Voilà.
La fermeture à partir de 11h30 concerne l'été,
oui, mais
les samedis et les dimanches, les jours fériés, et puis le vendredi matin, des jours de marché, mais c'est pas les mêmes horaires.
La modification importante que l'on a eu cette année, c'est que la plage de fermeture a été beaucoup plus importante qu'habituellement, très clairement. Non. Ça a commencé beaucoup plus tôt.
Non.
Dans le temps, pas plus tôt.
Alors, j'ai sorti l'ensemble des arrêtés depuis 2010. Le jour de première fermeture, c'était en général le dernier week-end d'avril. Et le jour de réouverture, c'était le week-end du rallye.
Tous les jours, fermé tous les jours.
Mais oui, c'était fermé tous les jours.
Alors moi, qui suis une grande utilisatrice de la rue du Bourg et qui suis toute la journée avec l'arbre vert, qui attend la fermeture avec beaucoup d'impatience, je ne vais pas vous le cacher, et bien oui, en effet, c'est fermé tous les jours de 11h30 à 20h en saison estivale, et ce qui est très valorisant pour l'économie touristique. On est quand même dans une ville petite cité de caractère, on a énormément de touristes qui viennent pour pouvoir profiter d'une rue qui piétonne avec des terrasses. Alors il faut trouver un équilibre pour tout le monde, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est notre choix, nous le pensons bon.
J'avais une deuxième petite intervention sur une
voilà, un sujet peut-être un petit peu plus... un peu plus compliqué. Je souhaite revenir sur les relations entre ce qu'on appelle la majorité et ce qu'on appelle la minorité. Je souhaite rappeler que depuis quelques mois, on a des réunions régulièrement entre vous et nous, avant les conseils municipaux, que ces réunions, je dirais depuis le début, se passent dans une ambiance chaleureuse, cordiale, que ce sont des réunions d'information, d'échange, et que on ressort régulièrement, on est en général 4 ou 5 de notre côté à participer à ces réunions, qu'on ressort en général de ces réunions relativement content d'apaiser des relations avec vous. Vous exprimez à cette occasion d'ailleurs un retour plutôt positif, hein, on sent quelque chose de réciproque. Alors depuis deux conseils municipaux, donc ces réunions en général ont lieu 3 ou 4 jours avant le conseil municipal. Et au cours de ces deux dernières réunions de conseil municipal, on a eu l'impression d'être des cibles. C'est-à-dire que vous aviez chargé un certain nombre de choses à lancer. Et alors on s'est demandé si c'était dû au fait qu'il y a une caméra, et que du coup, de quelque chose de privé entre nous, ça devenait quelque chose de public devant les diophytoires. Et je dois vous dire, au nom de toute l'équipe, hein, que cette sensation a été assez désagréable. On est attaché, je suis attaché en tant que maire, attaché à la discussion de fond. On est conscient qu'on ne sera pas toujours du même avis, peut-être même pas souvent du même avis, mais que cette discussion est importante. Mais nous refusons cette forme de dérapage qui conduit à des attaques personnelles, qui conduit à des phrases, à des allusions plus ou moins calomnieuses. Enfin, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je en tant que maire, je suis c'est mon rôle d'être le garant d'une certaine discussion, d'une certaine forme de respect, et je ne peux pas accepter cette manière de déraper, voilà, d'avoir des fausses allégations, d'avoir... Alors j'ai un exemple, parce que c'est celui du dernier conseil municipal, qui concerne la Sablière. C'était sur la discussion sur Epora, et... Donc Epora, qui est c'est une régie foncière qui permet de préfinancer pour la commune l'achat de terrain avec des projets derrière qu'il faut rembourser, mais qu'on rembourse gratuitement, enfin sans frais supplémentaires, au maximum 4 ans après l'opération. Donc Epora, l'idée c'est peut-être un jour de nous aider à acheter la Sablière. Les phrases de Patrice Benoît, ce projet n'a pas vu le jour, me semble-t-il, ce genre de phrase comme ça un peu, puisque la structure Eco-Ravie a fait valoir ses droits et cassé le projet en faisant acter la décision finale par monsieur le maire. Je suis désolé, le projet de la Sablière, Valérie m'a déposé un permis de construire. Le 28 mai, enfin non, il l'avait déposé avant, mais le permis de construire posé par Valrim pour 27 habitations a été refusé par la DDT. C'était le 28 mai 2020, donc on n'était pas là, j'étais pas là, ça a été refusé. J'ai le texte ici, hein, je peux vous le fournir après. Ça a été accepté de force par la mairie, c'est-à-dire que j'ai le texte biffé par l'équipe précédente, le 12 juin, donc... 14 jours après. À ma demande et suite à la discussion avec la sous-préfète que j'ai été voir, séance tenante une fois que j'ai été élu, ça a été ma première opération, ma première intervention, j'ai été voir la sous-préfète pour dire, mais qu'est-ce que je fais avec un permis de construire dont j'ai la preuve qu'il a été refusé par la DDT et qu'il a été accepté par Madame le maire. Et donc cet arrêté d'acceptation du permis a été est passé en contrôle de légalité et a été annulé par le préfet de la Drôme le 7 août. Je ne sais pas si vous voulez que je vous lise les raisons. J'ai tout là, je pourrais vous le faire valoir, vite fait. Hein. En effet, le projet autorisé ne respecte pas les prescriptions et obligations du PLU, approuvé le 9 juillet 2014, relative à la typologie de l'habitat, la forme urbaine, le maintien d'espaces boisés et classés, c'est-à-dire qu'ils avaient ratiboisé les bois, et la création d'espaces verts. Un peu plus loin, je vous demande de procéder au retrait de cette décision. Donc c'est le préfet hein, qui m'écrit. Je vous informe qu'en cas de refus de votre part ou en l'absence de réponse, le tribunal administratif de Grenoble pourrait être saisi aux fins de suspension et d'annulation de votre arrêté municipal. Il n'y a même pas cordialement. Hein. Le préfet, bam. Voilà. Donc c'est le type même d'intervention où je trouve que mon rôle de maire, c'est de dire ça, c'est pas permis de faire ça. Me semble-t-il, Ecoravi qui aurait fait ça. Alors effectivement, il n'y a pas de. On ne va pas aller au tribunal pour ça, hein. il n'y a pas de problème. Mais enfin, comprenez que une discussion qui a été mise en place avec vous 4 jours avant, où Patrice, tu étais là et tu as dit ça a l'air très bien ce projet avec Epora. Avec Epora, oui. Ça nous refroidit. Quoi, hein. Je pense vraiment que en tant que représentant de la chose publique, de la République, c'est pas admissible. Voilà. Donc je redis que je suis pour les discussions de fond et qu'il faut qu'on arrive à trouver une solution où vous soyez partie prenante. Hein. Moi, je le crois. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord, hein, toujours, mais ça veut dire que vous poserez vos différences et on posera nos différences. Donc franchement, il faut qu'on y arrive. Mais d'agir comme ça, on n'est pas sur Facebook, quoi, hein, on est au conseil municipal, devant Violfi. C'est pas admissible.
Alors, je vais répondre. Alors, comme vous l'avez très bien dit, monsieur le maire, vous nous accueillez. Vous nous recevez 4 jours avant le conseil municipal. Donc nous avons les dossiers à ce moment-là, voire un jour avant, quand M. Baillet n'est pas trop débordé. Donc il faut bien comprendre que si il nous faut quand même un petit laps de temps pour étudier les dossiers, d'accord, lire la convention. Donc lorsqu'on se voit, ça peut être cordial. Et puis il peut y avoir un échange tout à fait apaisé, mais lorsque on commence à lire les dossiers, à se renseigner sur, on parle de l'Epora, etc., il y a un moment, notre rôle, alors vous appelez minorité, il y a peut-être un moment, il faudra qu'on vous appelle l'opposition, on n'est pas d'accord avec des choses qui se font. Donc vous voulez encore me donner la fessée, comme la dernière fois quand je ne vous ai pas averti qu'un conseiller régional venait sur le territoire. Non, j'ai des choses à exprimer. Je pense que je l'ai fait normalement, avec une étude de dossier, avec des dires, si un jour il faut aller devant un tribunal, on ira devant un tribunal, de personnes qui témoignent de ce qui s'est passé sur cette affaire. Donc, ok, on n'est pas sur Facebook. Mais on n'est pas là pour dire « Amen » à tout ce que vous décidez. Lorsqu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, on applaudit les deux mains, il n'y a pas de souci avec ça. Lorsqu'on estime qu'il y a peut-être une erreur derrière, on a le droit de s'exprimer. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas m'exprimer.
C'est pas sur l'expression hein, que j'ai fait ma... Mon petit laïus, hein. c'est pas sur le droit à l'expression. Évidemment que vous avez le droit à vous exprimer Et ce droit est salutaire. Patrice, ce droit
parce que
est salutaire.
Oui, oui, non, mais attendez.
Non, l'un après l'autre, parce que là, c'est pas sur le fond que tu t'es exprimé. Ce projet n'a pas vu le jour, me semble-t-il, puisque la structure Eco-Ravie a fait valoir ses droits et cassé le projet. Qu'est-ce que ça vient foutre, la OUIL, franchement, en faisant acter la décision finale?
S'il faut creuser, on peut creuser. Par contre, moi, ce où je ne suis pas d'accord, c'est que là, vous voulez prendre de la hauteur, peut-être, mais il y a quand même des choses que vous savez mettre un peu cachées. Je veux dire, on pourrait aussi se demander, autre sujet, les arbres des cimetières ont été coupés. Vous nous avez fait tout un cirque pendant les élections comme quoi il fallait sauver la planète et s'empêcher de couper les arbres. Si vous voulez me rentrer dedans avec ça, moi je peux aussi répondre. Je veux dire, vous estimez que j'avance des choses qui n'ont rien à faire au conseil municipal, mais pour quelle raison vous allez faire croire à la population que vous êtes défenseur de la nature, qu'il ne faut pas couper des arbres de cimetière, et que là, il n'y a personne qui allait s'enchaîner. Monsieur Roustan a fini son job et tout est tombé.
Un petit mot sur les arbres. Il n'y a pas de souci. Un petit historique vite fait. Hein, mais j'ai donc appris au mois de juin de l'année dernière que certains arbres étaient en train d'être coupés par quelqu'un qui passait et qui a constaté que les arbres qui étaient coupés étaient parfaitement sains. Donc, je suis venu, je ne me suis pas attaché aux arbres, mais j'ai simplement fait venir il y a un certain nombre de gens qui sont venus pour constater ça. On a fait arrêter la coupe, on a essayé de comprendre ce qui s'était passé. J'ai étudié de manière extrêmement complète quels arbres avaient été coupés, quels arbres avaient été... Pour quels arbres on avait demandé à ce qu'ils soient coupés, parce qu'il y avait eu une étude de fait sur des arbres qui étaient malsains, qui étaient dangereux, donc il fallait les enlever, et ça ne correspondait pas. C'est-à-dire que ce n'est pas ceux pour lesquels l'étude avait été faite et qui avaient dit « il faut les couper » qui avaient été coupés, c'était d'autres. Mais c'est vrai. C'est incroyable. Alors est-ce que c'est des erreurs? Parce que c'est compliqué, il y a plusieurs arbres, il y a machin. Est-ce que c'était voulu? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qu'on a coupés en disant ça arrange les voisins? Enfin bon, mais c'est quand même... voilà. Donc, les arbres qui ont été coupés, les 6 arbres qui ont été coupés, 2 à l'extérieur, 4 dedans, étaient en mauvais état. Donc on a fait refaire une étude complémentaire par quelqu'un d'autre qui a confirmé que ces arbres étaient en mauvais état, on les a enlevés. Et tous ceux qui n'étaient pas en mauvais état, on les a laissés.
Bon, moi, on va pas rentrer dans le débat pendant 6 mois. Déjà, la caméra, on n'est pas là pour fanfaronner devant les gens d'Yolfi. Hein, croyez-moi, c'est pas le but. Nous, on est là pour représenter une partie de la population, déjà. Et ce que l'on a pu dire ou autre, même si vous pensez le contraire, beaucoup l'ont apprécié. Voilà, ça, c'est le premier point. Deuxième point, en ce qui concerne la réunion du jeudi avant le conseil municipal. C'est pas une réunion de préparation du conseil municipal, c'est une réunion de présentation. Donc on peut même rien vous dire, tout est fait. Donc c'est uniquement pour vous écouter dire, eh ben voilà, on va voter ci, on va voter ça, etc. On participe pas à la préparation du conseil municipal. C'est une préparation, c'est une présentation.
J'ai dit information et échange.
Voilà, oui, mais bon, enfin, l'échange et la présentation, on peut l'avoir de la même façon le jour du conseil, je veux dire, ça ne changera rien, ça sera exactement la même chose. Je vous l'ai dit depuis le départ, le jour même des élections, oui, certes, on a accepté d'être les perdants, oui, vous êtes les grands gagnants, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Cela dit, ça ne nous empêche pas, nous, à un moment ou à un autre, de pouvoir faire des choses et de dire des choses et de les assumer complètement, d'accord ? Et on a le droit aussi de ne pas être d'accord avec vos idées. Et on en est même très loin d'être d'accord avec certaines de vos idées. Voilà. Donc la chose est là. Et nous appeler minorité, depuis le début, ça nous travaille, beaucoup nous lisent de l'extérieur. Moi, très clairement, ça me passe un peu en dessus, mais je vais quand même y revenir. Le mot minorité, on sait ce que ça veut dire. Majorité, minorité. Non. Appelez-nous opposition, on préfère. Moi, très clairement, je préfère. Maintenant, je préfère. Voilà. En fait, ah, ensuite, le fait de vouloir travailler main dans la main, oui, on vous l'a proposé depuis le départ. Depuis le départ. Et depuis des mois et des mois, on vous dit qu'on n'a aucune communication. On nous envoie que ce qu'on veut bien nous envoyer. Quand on nous demande, Monsieur Mancini, je vous cite, quand vous nous demandez un article, je vous envoie un article, vous le gardez 3 semaines auprès de vous, hein, ça concerne le bulletin municipal, et la veille au soir, vous me dites il est trop long, il faut le modifier. Est-ce que c'est pas nous prendre pour un peintre quelque part? Je crois que si. Ça, c'est un, tu parles de respect, c'est un manque de respect. Me dites pas que vous n'avez pas eu le temps de le lire avant et me dire il est trop long. Voilà. Après, j'ai entendu plein de choses depuis le départ. Oui, on a été maladroit. Oui, non, faut arrêter. Faut arrêter. Très clairement. On vous a laissé le temps de vous mettre en place. On vous avait laissé le temps de vous installer. Nous, on était là pour vous donner un coup de main. Vous n'en voulez pas. Ou alors, vous en voulez uniquement pour qu'on puisse valider des choses qui, peut-être, quelque part, vous arrangent peut-être qu'on soit aussi là. Mais c'est tout. Mais on est aussi capable, et Patrice l'a très bien dit tout à l'heure, d'abonder, d'aller dans votre sens aussi, parce que le travail qu'a fait Marion, c'est très bien, il y a eu plein de choses de positives. Mais on a aussi le droit de ne pas être d'accord avec vous et de pouvoir s'exprimer, tout simplement. Voilà. Et une dernière chose, tu as parlé des deux derniers conseils municipaux, effectivement, pas le dernier, mais l'avant-dernier, c'est moi qui ai pris la parole. Et tout ce que j'ai annoncé, toutes les choses étaient vraies, avec des preuves, et vous le savez tous très bien, vous le savez tous très bien. Et les preuves, je peux vous les apporter, il n'y a aucun souci. Voilà. Merci.
Bien, merci. Moi, je mets la fessée à personne parce que je suis contre la violence éducative ordinaire. Je suis désolée, j'ai jamais frappé un enfant. Nous, ce qu'on veut exprimer, et peut-être qu'on va s'arrêter là, c'est pas que vous n'avez pas le droit de ne pas être d'accord avec nous. C'est que exprimer son opposition par de la polémique ou des calomnies, c'est tellement dommage et c'est tellement pas constructif. Alors que nous, on est au travail, on met notre énergie au service de construire Diolfi, oui, peut-être un peu autrement pour demain, mais parce qu'il y a des urgences dont on a conscience et qu'on a envie de relever à bras-le-corps. Alors voilà, si on ne veut pas travailler ensemble, parce que travailler ensemble, c'est très vite entrer dans la polémique, c'est vrai qu'on ne fonctionne pas comme ça. On n'est pas trop branché sur les réseaux sociaux, on se prend pas trop en photo en cachette. On travaille, on met notre énergie au service de l'utile et on avance. Merci.
J'ai envie de dire aussi quelque chose. Je me sens un peu bouillonnante tout en étant calme, mais un peu bouillonnante là. Donc j'ai envie d'exprimer un peu ce bouillonnement. Il y a plusieurs conseils municipaux en arrière. Patrice et Sylvain, en aparté, vous m'avez demandé si je vous trouvais agressif. Voilà, je suis très visuelle, donc ça se passait dans cet espace-là. Et je vous ai dit non, je trouvais que vous nous permettiez de réduire notre angle mort, justement en regardant la réalité sous tous les angles, et peut-être que nous, on ne voyait pas forcément les mêmes angles que vous. Et je trouvais que c'était vraiment très bien. Et puis cette alliance a disparu, et moi je ne vais pas me centrer sur le fond, mais sur la forme. Parce que les oublis, les erreurs, les maladresses, évidemment, mais on en fait des paquets. Par contre, Sylvain, par exemple, quand tu nous parles à notre sujet de mensonges délibérés, je me dis, mais qui serait capable de mensonges délibérés? Est-ce que, voilà, on attribue parfois à l'autre quelque chose qui nous correspond ou pas? Moi, je vous pense être des honnêtes hommes, des honnêtes femmes qui avaient envie peut-être de prendre la mairie dans 5 ans et pourquoi pas, on vous applaudira. Mais franchement, ce systématique, moi, me fait peine parce que cette alliance du tout début, je ne la sens plus. Je sens quelque chose un peu comme ça, où on est attendu au tournant. Et donc, c'est un peu relou, comme diraient les jeunes.
Oui, on a d'autres questions diverses? Non, Thibault?
Une question diverse, moi, mais c'est rapide, ça. Je ne vais pas rentrer dans la polémique non plus. Là, je suis une nouvelle fois, à titre personnel, parce que j'ai du mal à le vivre. Et beaucoup de personnes de Diolfi et de l'extérieur me le disent. Alors certes, Madame Girard, j'ai bien lu votre article dans Dauphiné, hein, parlant de biodiversité, ça concerne la rue Sadi-Carnot, les promenades. Laisser pousser la rue des promenades. Oui, pourquoi pas, hein, la biodiversité, pourquoi pas, quand on sait que quand même, biologie son territoire, c'est 80% de bois. Donc je pense que la biodiversité, elle a malgré tout un petit peu de place autour de nous. Bon, ça c'est un point. C'est une vision. Autre chose, moi ce qui me gêne, si vous voulez, alors c'est valable l'allée des promenades, c'est valable l'allée de Liche, c'est que ce sont les deux entrées principales de la ville de Biologie. Et c'est forcément la vitrine d'un village. Quand les gens arrivent, on a l'impression que la ville est à l'abandon. C'est ce que je ressens, c'est ce que beaucoup de biologistes ressentent. Mais malgré vos, comment dire, vos explications, vous avez certainement raison, peut-être raison, peut-être tort, je ne sais pas. Moi, je le ressens comme ça, et beaucoup de personnes le ressentent. C'est ça qui me... Donc, je suis le porte-parole de ces gens-là, et par la même, mon opinion. Et puis, il me semble, alors là, je me trompe peut-être aussi, je pense qu'on avait investi dans des machines, justement, à un moment, pour nettoyer tout ça, hein. Donc, quid de ces machines, si on les a achetées et qu'on s'en sert pas, c'est un peu ballot, quoi. Voilà, c'est une dépense, à mon goût, inutile. Donc voilà, après, c'est... voilà, moi, quand je rentre dans Biolfi, très clairement, ça me fait mal au cœur, quoi. Je ne reconnais plus mon Biolfi. Voilà, c'est tout.
Merci pour cette question et d'avoir lu cet article. C'est déjà intéressant de savoir qu'au moins, ce qu'on fait paraître dans la presse est intéresse. Donc, merci. Donc, en effet, en ce début de période où il y a eu des pluies, ça s'est embroussaillé, on pourrait dire, donc ça fait un aspect négligé. D'une part, c'est évidemment pas cet aspect que l'on vise ad vitam aeternam, hein, c'est qu'un début de lancement d'expérience, comme c'était marqué. Il y a des très très beaux exemples, par ailleurs, dans plein de villes, qui montre que ça peut être au contraire une entrée de village bien plus agréable que ce que c'était, puisque c'était très minéral jusqu'à présent, hein, vu qu'il y a, bon, ces arbres qui sont là, mais sinon c'est des grandes allées de gravier et qui sont très 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 chaudes en été et qui peuvent devenir insupportables. Donc le but c'est pas de les laisser s'embroussailler comme ça et que ça soit des herbes folles, évidemment. C'est un début de non, on va dire, désherbage, mais après ça peut être un fleurissement, ça peut être une appropriation voilà, de ces bandes, voilà, que ce soit plus herbacé. Et quant à l'aspect mécanique, donc vous avez abordé, je vais passer la parole à Vincent qui s'occupe plus du cadre de vie.
Alors oui, justement, deux petites précisions à ce sujet. Alors au-delà d'avoir un aspect environnemental, ça a aussi un aspect cadre de vie très important, comme l'a très bien dit Laurence. Et c'est désherbé demain après-midi. Ça y est, là ils ont fini avec le cimetière, ils ont commencé avec le cimetière. Et demain après-midi, les allées seront donc désherbées. Et je voudrais juste finir, voilà, en précisant que c'est effectivement une expérimentation que ça va se faire vraiment, donc... Oui, pardon, ça ne va pas être désherbé, donc entre les arbres, au niveau des arbres, pardon.
En partie.
Et,
en partie.
En partie, voilà. Mais là, c'est là où je voulais en venir. C'est que c'est des expérimentations, donc ça se fait par phase. On ne se précipite pas, on regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc là, on va voir un peu cet été, de quel côté l'herbe tient le mieux, ce qu'on en fait, et faire évoluer donc, l'installation, au mieux même avec les habitants et les usagers de manière générale. Donc voilà, faut pas s'inquiéter, ça arrive là. On y est.
Une question diverse encore, Jacques bouillonne. Non. Avec ses seringues à la main.
Bon, donc quelques informations sur le centre de vaccination. C'est la dernière fois que je le donne au conseil municipal, puisque au prochain conseil municipal, ça sera fermé. Donc depuis l'ouverture, eh bien, on a procédé à 1111 vaccinations Pfizer. Et dont 700 premières injections et 412 deuxièmes injections. La fermeture du centre temporaire, car c'était bien un centre temporaire, hein, ouvert pour faciliter la vaccination des plus de 70 ans, a été repoussée au 15 juin. Compte tenu des deuxièmes injections à effectuer, la prise de rendez-vous n'est plus possible et le numéro de téléphone dédié a été fermé. Toutefois, jusqu'à la fermeture, les personnes majeures, puisque maintenant on peut vacciner les personnes majeures, qui souhaiteraient une première injection sur Biolfi, peuvent se présenter à la halle dans la dernière heure de la vacation. Elles pourront, dans la mesure des possibilités, s'il y a des septièmes doses, ce qu'on appelle les septièmes doses, s'il y a des gens qui ne sont pas venus,
Donc, dans la mesure des possibilités, bénéficier d'une des doses restantes. Je rappelle que la présentation de la carte vitale est nécessaire. Et enfin, prochaine vaccination, demain, 8 juin, mercredi 9 juin, jeudi 10 juin, vendredi 11 juin, lundi 14 juin et mardi 15 juin. Voilà. Et il faut se présenter vers les 17 heures. Quand le centre fermera, le 15 juin au soir, on aura procédé à environ 1360 vaccinations.
Monsieur Glaise, bravo. Jacques a donné beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie à cette opération. Quand on a démarré il y a quelque temps, on ne pensait pas arriver à un résultat aussi important.
Une dernière précision, le centre de vaccination de Montélimar est maintenant très facile d'accès. Encore ce matin, on pouvait prendre un rendez-vous pour l'après-midi.
Moi, j'ai une petite question concernant l'éclairage et l'extinction des feux le soir. Est-ce qu'il est possible de la décaler à minuit ? Alors, oui.
Tout à fait.
Alors, donc c'est prévu pour le 30 juin en fait, puisque l'arrêt du couvre-feu est prévu pour justement le 30 juin. Donc deux jours avant, le SDED a pu commander des prestataires et donc à partir du 28, du 29 juin, ça devrait être opérationnel. Donc. Alors, en fait, comme vous le savez, il y a un questionnaire en ligne depuis avril et donc on continue à recueillir les avis des habitants. Il y aura déjà un article et un retour à mi-expérience, on va dire, dans le bulletin de juin, donc qui donnera un petit peu les avis, bon, succincts, hein, parce qu'on ne pouvait pas mettre beaucoup d'articles. Mon article a été sabré également. Par Christophe, et je me suis prêtée au jeu parce qu'il y avait une grande richesse dans ce journal et qu'on ne pouvait pas entraîner des surcoûts trop importants. Et donc, en revanche, en novembre, on devrait faire une parution de tous les résultats beaucoup plus détaillés, donc on verra toutes les réponses, dans quel sens ça va, les suggestions pour les horaires, les quartiers, etc., puisqu'il y a une grande richesse.
Ah si.
Alors, si ça s'allume, il faut nous le signaler parce qu'en principe, ce n'est pas possible. La programmation est liée en effet à la luminosité, donc c'est impossible. Donc, mais en revanche, il peut y avoir des dysfonctionnements et ça, il faut les faire remonter. Moi, j'arrive à repérer par où je passe, mais si vous en voyez, surtout n'hésitez pas à nous le faire remonter, parce que c'est des horloges qui sont assez obsolètes. Il peut y avoir des petits décalages qui se créent. Et le SDED est là pour, en principe, faire que ça soit opérationnel. Et ça fait partie aussi de nos projets. Je cherche des subventions, je cherche des appels à projets pour qu'on puisse changer le parc des horloges qui, en effet, commence malheureusement à avoir des dysfonctionnements. Et puisque j'ai le micro, est-ce que je peux en profiter pour faire quelques annonces, puisqu'il y a des réunions publiques où je vous convie tous. Ce jeudi 10 juin, donc il y a une conférence justement sur la biodiversité communale et notamment sur l'étude papillon qui a été menée en 2020 par la LPO, donc dans le conventionnement avec l'Office français pour la biodiversité. Le 16 juin à 10h30, donc mercredi à 10h30, il y a une animation sur les espèces envahissantes exotiques, donc qui sera animée par la Fredon, donc que mon collègue Vincent Domas a organisé. À 18h30, donc il y a une conférence sur que mangeons-nous, qu'est-ce qu'on mange, sur donc l'alimentation sur notre territoire, et c'est animé par des greniers d'abondance. Et Lyon 2, donc un universitaire et une association qui œuvre pour se mettre au service des collectivités pour leur proposer des actions de réflexion et de plans d'action sur les territoires, comme Diolfi. Ensuite, il y a le 27 juin, je prêche pour ma paroisse pour l'instant, hein, mais je passerai la parole à Marion après. Donc à 15h, nous menons notre deuxième nettoyage du Jabron et des affluents. Et puis, j'avais envie juste de rappeler qu'il y a des élections qui arrivent prochainement et on vous encourage évidemment à participer à ces élections qui ont une importance énorme sur notre territoire, que ce soit les départementales ou les régionales.
Alors moi je vais continuer sur les réunions publiques, donc pour la commission 6, éducation, enfance, jeunesse, je peux en annoncer deux. Donc une première, enfin d'ailleurs qui ont le lieu le même jour, les deux auront lieu le mercredi 23 juin. La première à 14h, alors qui est plus à destination des jeunes et principalement des jeunes utilisateurs, où on se réunira donc au skatepark avec l'architecte qui a été retenu pour la conception du skatepark et où on choisira les modules qui seront installés pour ce skatepark. La deuxième, c'est une réunion donc le mercredi 23 également à 17h. Alors je suis encore désolée pour l'horaire pour les gens qui travaillent, mais en côtoyant les familles, c'est vrai que c'est plus facile souvent pour elles qu'à des horaires plus tardifs où il y a concrètement le bain, les repas, etc. Qui sera donc autour du PEDT, du projet éducatif de territoire, donc qui est on va dire l'orientation pédagogique d'activité du périscolaire de la commune. Pour les personnes qui sont intéressées par ce sujet mais qui ne peuvent malheureusement pas venir, nous avons créé un questionnaire en ligne qui sera également disponible en papier à l'accueil de la mairie. Et si vraiment vous avez vraiment envie de venir, que vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à me faire un mail. Si on a beaucoup de retours, on est prêt à essayer de mettre une deuxième date qui arrangerait les personnes qui ne peuvent pas à cette horaire-là. Voilà.
Encore une dernière date. Je vois que notre dernière spectatrice lâche prise. Merci, bonsoir. Une dernière date, on avait prévu les conseils municipaux tous les 5 semaines. Et il y a une première exception, puisque ça tombait sur le 12 juillet, qui est en plein pont du 14 juillet. Ça arrangeait pas tout le monde. Donc on a avancé le prochain conseil municipal au 5 juillet. Je vous remercie. Il n'y a pas d'autres questions.
Juste un détail par rapport évidemment à voter, mais aussi à pouvoir tenir les bureaux de vote. Donc tous les habitants peuvent tenir le bureau de vote, ce qui évitera que les élus fassent 4 heures deux week-ends de suite. Donc vraiment, c'est un appel à la solidarité des habitants pour soutenir un peu les élus dans cette aventure de tenue de bureau de vote. Merci.
Moi, j'ai juste une petite question pour Magali. Au dernier conseil, tu nous avais dit que les sacs à crottes, je reviens dessus, on pouvait aller en chercher en mairie. Or, quand on y va, on ne les donne pas. Parce que ça pollue. Donc juste si tu pouvais... Merci.
Bien noté.
Moi, juste pour terminer, pour éviter d'être réprimandé au prochain conseil municipal, Nicolas D'Aragon, Didier Claude Blanc et Nathalie Dufour viennent le 9 juin sur notre territoire pour rencontrer les acteurs économiques. Donc on partira de l'abbaye de Mazin et on finira à Clupy en passant par Guelphy.
Monsieur le conseiller municipal, je vous remercie. Et nous allons clore le conseil municipal sur cette information. Merci à tous. Bonne soirée et en tout cas au 5 juillet. Merci.